Kambo na Paris, nanu mose se kitoko, sonne à l'oubouna na lia, me rêve ngongolo e.
Allez, t'as ta sorte, boula son, paye la son, boula son, papa na bane. Allez, meche, 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 meche. Arc-en-ciel, ta fille, ta mère.
Go, 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 go.
Allez, t'as ta sorte, boula son, paye la son, boula son.
Bonsoir à tous et à toutes.
Saint Thomas.
Bienvenue sur le plateau de.
Geneviève qui soque en Liège. Estogar, le Benguis, Christiana Kwasa, Pepa Kunti, Amo Sissimbi.
Mon orange, je l'ai gardé pour ma belle. Quand elle reviendra, je la lui donnerai. Pour qu'elle sache à quel point je l'aime. Pour qu'elle sache à quel point je l'adore. Chérie à Simba Kangaye. Ici quand elle ingrata, na bakalana ye, na songa ka bébé na berceau, elle est la femme de ma vie, la personne qu'il me faut. Loketo pété, mama e loketo pété.
Plateau de Maki Pluriel, on a un petit souci de son ou c'est moi qui comprends. Bonsoir.
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 Vous prenez la main parce que moi je suis un peu en difficulté.
Ah ben bonsoir à toutes et à
tous. On dirait que l'essentiel voulait me bloquer.
Qu'est-ce qui se passe? On est bien sur Maki Pluriel. Donc émission de 20h à 22h. Vous pouvez nous contacter donc au 04 78 21 05 95. Bonsoir Abdes.
Bonsoir Pédia. Tout le monde.
Ça va Abdes?
Ouais, ça va très bien, toi?
Eh ben ça va, ça va. Bonsoir Glouba.
Bonsoir à tous. Bonsoir Choco. Bonsoir, bonsoir Abdes. Bonsoir, bonsoir Christophe. Bonsoir.
Alors Christophe, alors, est-ce que tu nous entends?
Est-ce que vous m'entendez?
Ben moi
oui,
je t'entends.
Oui, nous t'entends.
Bon, si vous m'entendez, c'est parfait. Ah. Moi je m'entends pas, mais bon, il n'y a que les grands esprits qui ne s'entendent pas. 04 78 21 05 95, on est parti pour ces deux heures. C'était un retour. J'ai eu des échos, il paraît que quand j'étais pas là, c'était chic, hein.
Je ne dirais pas que c'était chic, mais on s'est bien débrouillé. C'était comment, Glouba?
On lui l'a fait honneur, je pense.
Ah ben, je pense, ouais.
Hein? Ah ouais, ouais.
Oui.
Abdes, toujours fidèle au rendez-vous, ouais. Toujours les bons pourcentages, les bons diagnostics. Voilà.
Ah bon, hein?
Ah,
bon.
On est bien.
Donc, ouais. Finalement, je crois que je vais demander ma mise en disponibilité pour aller faire autre chose.
Ah non.
Alors, si c'est pour les mises à jour le mardi soir, c'est mort.
Voilà, je crois que je vais trouver la solution. Hein. Pourquoi? Je crois que je vais trouver la solution des bonnes mises à jour le mardi soir. En plus, il y a eu le temps qu'il fait là, c'est humide.
Ben oui, mais bon.
C'est un temps à couette, ça.
C'est un temps à couette, mais ça n'empêche pas que bon, nous, on est là.
Bon.
Et on va faire une belle émission.
Alors, au programme de l'émission, normalement, les échos des Maquis. Et puis, on a comme invité la main tendue. Eux aussi, je ne sais pas s'ils ont tendu la main du C25 ou quoi, où ils sont perdus. Ils vont arriver. Ils ont quelques minutes de retard. Mais au moins, c'est bien. Ils ont appelé pour dire qu'ils ont quelques minutes de retard. Est-ce qu'on fait le tour plateau pour savoir un peu comment s'est passée la semaine des uns et des autres?
Par qui on commence?
Par Christophe. Toujours, on fait le tour plateau. Mais Christophe, tu veux bien commencer?
Bon, moi, je commence. Moi, ma semaine, ça a été tranquille. Comme d'habitude, j'ai chauffé un peu le week-end, je me suis détendu, donc c'est pour ça que j'ai la pêche. Mais une semaine très, très, très chargée, je n'ai pas vu la semaine passer.
Quand tu dis tendu,
je me suis détendu.
Ah, détendu, je pensais que tu avais dit...
Ah ouais, parce que j'ai un emploi de dingue, hein. Je n'ai même plus le temps de penser à autre chose.
Ah.
Ah ouais, les sorciers, même, ils me survolent là, vraiment, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour eux. Donc samedi, on s'est posé un peu, enfin tout un peu, on était au Conakry. D'ailleurs, ça me permet de passer un petit coucou au Conakry, hein, à Abby et puis à Gibril.
Ah oui.
Hein, on est là, on a bien rigolé. Et puis vous avez le bonjour de Tino.
Ah, Tino de la Roca.
Tino de la Roca, il a dit, ah, est-ce que l'équipe va bien? On dit, ça va bien. Il dit qu'il passera nous faire un coucou.
On espère. Hein.
Il nous a raconté des blagues qui nous ont fait bien, bien rire.
Mais d'ailleurs, on lui doit beaucoup de mots.
Ah oui, la mise à jour, c'est
la
lui.
La mise à jour, c'est lui. Voilà. D'ailleurs, Choco aussi, c'est lui.
Choco, c'est lui, ouais. Il a dit qu'il va passer vous faire un coucou. Est-ce que l'équipe passe bien? Il a dit, en tout cas, l'équipe est là, elle a pris la relève. Et puis il a dit, bah écoute, tu leur passes le bonjour et puis on est ensemble. Mais on a bien rigolé quand même. Il a la pêche, hein, il est toujours de bonne humeur, toujours bien rasé, bien
Tino,
beau gosse.
Ouais.
Donc ça va. On lui passe un coucou d'abord, Tino, hein, j'espère que tu vas bien. Donc,
et il y a la journaliste, hein, la bonne petite aussi.
La journaliste.
Sa fille.
Oui, sa fille. Ah oui, sa fille qui est rentrée en sixième, ouais, tout à fait. Donc
voilà.
il vous passe le bonjour. Voilà un peu ma semaine et mon week-end. Donc voilà.
Bon.
Et vous?
J'ai passé un très bon week-end. J'étais sur Martigues. Et puis il a fait beau. C'était génial. On était entre amis. C'était très très bien. Ça m'a détendue. Je suis remontée en pleine forme. J'ai la pêche.
Il a fait beau. Oh,
génial. Super bien. Ça fait du bien. Et puis tu sais, c'est pas bling bling comme on pourrait dire la Ciotat.
Non. Ça reste. C'est bien plus calme.
Ouais,
plus
c'est
simple.
Calme, détendu. Les gens sont simples. C'est vrai. C'est génial. Vraiment bien. Voilà. Ça m'a même donné envie de.
De t'y installer.
Ouais, dans le futur, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, j'embrasse fort Gringo. Il se reconnaîtra. C'est celui qui nous a accueillis donc, gentiment ce week-end.
Ah bon, on t'a accueilli ce week-end hein.
Ah, on m'a accueilli, accueilli.
Bien.
Il y en a qui ont la chance. Nous, on ne nous accueille pas.
Ah oui.
Nous, on tient dans la guillotière.
On va avoir les bons plans. Hein.
On tient dans la guillotière, puis on voit, il y a la lumière, la musique. On dit, on peut nous accueillir. Donc, c'est ça qui est bien. Ah, donc, ça a bougé ce week-end.
Ah, ça a bougé. C'était bien. C'était très bien. Ouais. Comme tu dis, alhamdoulilah. C'était bien. Et Abdes, alors, ton
moi, tranquille. Hein.
Ouais. Abdes, toi, tes week-ends, là, c'est spécial. Toujours tranquille.
Rien de spécial.
Ouais, inventer au moins un truc.
quand j'ai des choses à dire, je les dis. Quand j'ai rien à dire, hein, bah, voilà, je dis tranquille. Hein.
Non, pas du week-end, non pas de la semaine. La semaine de mardi dernier, car mardi aujourd'hui, là, t'as rien fait.
Non, rien.
Rien.
Si, j'ai dit bien.
Ah, bien. Bon, t'as rien fait de spécial.
Non, rien de spécial.
Bon.
Non, franchement, rien de spécial. Tranquille.
Bon, Pépère. Abdes, c'est quelqu'un qui est tranquille. Et Glouba.
Eh bien, Glouba, très bien. Elle a fait un week-end égoïste.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire un week-end toute seule. Et qu'est-ce que c'était bien ?
Un week-end toute seule ?
Ouais. Mmh. Et elle a même été au cinéma toute seule.
Ah bon, hein ?
Et c'était chouette. Et d'ailleurs, j'ai vu un très bon film, très bon, je dirais, un bon film, on va dire, Prémonition.
Et ça parlait de quoi ?
Avec Anthony Hopkins, vraiment.
Ah, mais Anthony Hopkins,
c'est de toute façon, c'est une pointure. Ben, hein. Ouais. Donc, quand on voit Anthony Hopkins, on y va. Un très très bon film pour ceux qui aiment bien tous les sujets autour de la prémonition, autour de de toutes ces choses irréelles et fantastiques, mais voilà. Moi j'ai bien aimé.
Abdes, donc tu n'as même pas allé au cinéma non plus.
Non, malheureusement non.
Glouba au moins elle allait au cinéma même dans l'égoïsme.
Ah mais ça fait du bien des fois. Hein.
Non mais Glouba elle bouge hein.
Elle bouge.
Glouba elle va souvent au cinéma.
Non mais elle a dit ce week-end était égoïste.
Oui mais donc, ça fait du bien. Ouais, tu sais des fois de prendre soin de soi-même et d'arrêter de penser aux autres.
Moi elle a de belles passions.
Hein, là, ouais,
elle a de belles passions.
Donc toi, tu es allé dans le sud. Moi, je suis allé dans la Guillotière.
C'est un peu le sud, hein.
Voilà, un peu le sud. Glouba allé au cinéma et oui. Abdes, il était tranquille.
Ouais.
Bon, bah, écoutez. Ok. Dans
le temps, ça fait du bien d'être tranquille.
Oui, c'est vrai.
Mais ça, je constate. À chaque fois, on te pose la question, tu dis que tu es tranquille.
Il a du jardiner. Il a du jardiner. Ouais,
et le figuier, tout ça là. Tu n'as pas été bousculé par la tempête, au fait ?
Non, ça va le figuier, il a bien résisté.
Parce que la tempête, il paraît qu'elle a détruit pas mal de choses. Hein.
Ouais, non, ça va à la maison, non, il n'y a rien eu.
Bon.
Tant mieux.
Écoutez, 04 78 21 05 95. On va faire une virgule musicale avant de revenir aux échos des maquis. Est-ce qu'on peut faire un tour un peu des échos des uns et des autres avant d'entamer un peu cette virgule afin que nos éditeurs sachent. Et qu'on leur mette l'eau à la bouche.
Alors, qui commence ?
Ben moi, je commence. Moi, je vais parler des statistiques ethniques.
Statistiques ethniques.
Voilà, ça, c'est mon écho. C'est mes échos de la diversité. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Mes échos des maquis.
Moi, je vais parler des parents d'élèves absents lors des réunions.
Oula, c'est chaud, ça.
Ouais.
Abdes.
Moi, je vais parler du seuil de pauvreté.
Du seuil de pauvreté. Ouais. Et Glouba ?
Alors, est-ce que je dois parler de quelque chose ? Non, mauvaise note, elle n'a rien préparé. Non, je rigole. Je vais parler d'un jugement là qui a eu il n'y a pas longtemps à propos d'un monsieur qui aurait aidé sa femme à mettre fin à ses jours.
Ah oui.
Et on va parler un petit peu de... Voilà.
De l'euthanasie.
Ouais. Voilà.
C'est ça, hein, en français.
C'est ça. C'est pas très gay, vous n'allez pas m'aimer, mais bon.
Bon. Finalement, parmi nous trois, là, il n'y a aucun qui a un sujet gay, alors.
Bah si.
Bah si.
Pourquoi ?
Bon. Non, mais je sais pas, c'est une question.
Bah écoute, c'est des choses dont il faut parler.
Moi, c'est plutôt positif. Donc,
Bon, c'est positif. Donc, on va commencer par toi alors.
Écoute, ce sont des choses de la vie.
Oui. Donc, on commence par Abdes, hein.
Ben, oui.
Bon, 04-78-21-05-95, on fait une virgule musicale. On va avec Ousmane Alkara, c'est un Lyonnais, il fait du reggae et puis il aime bien Lyon, comme nous aussi. Et puis, si vous avez un titre que vous souhaitez qu'on mette, n'hésitez pas à nous appeler 04-78-21-05-95.
Maquis pluriel.
Yermane, Bamba, Yermane.
Les gens n'aiment pas les gens. Hein. Il s'appelle Ousmane Alkara. Oui. C'est lui qui chante ce titre qui nous parle un peu de Mourid. Les Mourid, donc, c'est au Sénégal. C'est une confrérie. Donc, il leur rend hommage dans ce morceau. 04-78-21-05-95.
N'oubliez pas qu'on peut passer des annonces hein, au 04-78-21-05-95 ou sur notre Facebook directement. Donc, vous pouvez tout proposer. C'est tout à fait gratuit. Donc, vous inquiétez pas. Du service, des offres d'emploi, garde d'enfants, jusqu'au canapé, tout y passe. Voilà, 0478 21 05 95.
Voilà, le studio est ouvert, il suffit juste de nous appeler, puis on vous passe en direct.
Voilà, voilà.
On est dans la rubrique Les Échos des Maquis. Abdes, on commence par toi.
Oui, c'est
parce que tu es positif, toi, contrairement à nous.
Oui.
Ah, mais pas toujours, hein.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, on a une belle surprise aujourd'hui sur le positivisme, on dira ça peut-être tout à l'heure.
Ah, t'as des échos, toi?
Non, j'ai pas des échos, j'ai dit aujourd'hui, il y a un côté positif que moi j'ai retenu. Donc ah, tout à l'heure, je m'exprimerai à ce sujet.
Ah ben, écoute, on va...
Les gens sont sur la garde.
Alors là, je suis sur les gardes, hein.
Pire. Eh, pire. Abdel, c'est parti.
Ouais. Donc moi, je voulais revenir sur le seuil de pauvreté en France. Donc, ce sont les chiffres de 2013. On n'a pas encore les chiffres de 2014, mais le seuil de pauvreté en France en 2013 a reculé. C'est pas énorme, hein. C'est, en 2012, il était à 4% de la population.
Alors, quand on dit 4%, ça veut dire 4% de la population. C'est-à-dire qu'on prend les 60 millions de Françaises, il y a 2 400 000 pauvres.
Voilà, 65 millions.
Et alors, on est pauvre à partir de quoi?
Est pauvre à partir de... Pour une personne vivant seule, c'est 945 euros avant. Et c'est passé à 964, mais ils arrondissent au médian à 1 000 euros.
D'accord. Donc 1 000 euros par personne, on considère que en dessous, la personne est pauvre.
Et considérée comme pauvre.
D'accord.
Et en dessous du seuil de pauvreté.
Et donc ça a reculé. Alors,
ça a reculé de 0,3 points, c'est pas énorme, mais bon, ça a quand même reculé.
C'est dû à quoi alors ça, c'est le boulot qui a repris.
Voilà, c'est surtout le chômage qui a baissé un petit peu.
Ouais.
Enfin, il a baissé cette année, mais en 2013, c'est plutôt, on va dire, comment dire, en 2013, il y avait aussi ce qu'on appelait la. Ah, j'ai oublié le mot. Ça va me revenir.
Mais oui, c'est
Wikipédia.
Wikipédia. Abdespédia, reprend.
Voilà.
Comment dire, les Français étaient plus comment on appelle ça?
Ah, je pourrais pas t'aider.
J'ai oublié. Ils avaient plus le moral.
Ah.
Donc je pense que ça a joué aussi au niveau du pouvoir d'achat. Ce qui fait que plus on consomme,
oui.
Plus les entreprises produisent.
Mais quand on dit que les gens avaient plus le moral pour consommer, c'est-à-dire que les prix ont baissé ou c'est...
Oui, il y a aussi ça a joué.
Parce que je
aussi.
Pense que les prix ont bien quand
ça,
même
baissé. Ça a joué aussi,
baissé,
il y a
ouais.
l'inflation qui je crois qu'il était même pas loin de zéro en 2013.
Puis ils ont fait des efforts au niveau du carburant, il me semble aussi.
Non, mais ça, c'était surtout cette année.
Ah.
C'est surtout cette année, mais ça va repartir à la hausse, là.
Ah.
Bon,
ah.
Malheureusement.
On va aller mettre le plein.
Ah, ouais.
Oh, il y a encore un ou deux mois, c'est bon.
Ça va.
Avant que ça remonte.
Moi, ce qui m'alerte un peu, c'est de penser que quelqu'un n'est pas considéré pauvre à partir de 900 et quelques euros par mois.
C'est ça.
Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec 900 euros par mois?
Mais, ouais.
Hein, quand on paye sans loyer, exactement. Quand on paye... toutes les charges de la vie quotidienne, quand on fait un ou deux caddies de course, qu'est-ce qui nous reste avec 900 euros?
Exactement.
Voilà.
Pas grand-chose.
Donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu, ça me choque.
Ouais.
C'est que je pense qu'il faut revoir, mais si on revoyait, on rajouterait des millions et des millions de pauvres.
C'est ça.
Non, c'est en dessous de 1 000 euros.
Oui. Mais, si
oui,
on
mais ça, c'est le statistique qu'ils ont fixé, oui. Eux, mais je ne pense pas que les personnes qui touchent un petit peu plus 2 000 euros soient moins pauvres, entre guillemets, ou peuvent mieux consommer
c'est ça.
Que
bien
d'autres.
Sûr,
hein.
Voilà.
Bien sûr.
Mais ça, c'est pour une personne seule. Après, pour un couple,
oui, mais même justement,
pour
une
couple, c'est 1 600 euros. Et
pour un couple, pour c'est 1 600.
Et un couple avec deux enfants, je crois que c'est moins de 2 000 euros.
Mais dis-toi qu'une personne seule, justement, incombe à elle toutes les factures, finalement.
Elle paye plus qu'un couple.
Elle n'a pas d'aide. Hein.
Voilà, elle n'a aucune aide.
Elle
paye toutes ses factures toute
tout
seule. C'est pour ça que je me dis, moi, dans les façons de calculer le niveau de pauvreté en France, je pense qu'on devrait un petit peu revoir ces chiffres-là.
Mais le gouvernement est bien content d'avoir des célibataires. Hein.
Et ben oui.
C'est celui qui paye le plus.
Mmh.
Voilà, tout à fait.
Ouais.
Ça a été reconnu, ça.
Autant du côté des personnes pauvres que des personnes qui ont un travail au niveau des impôts.
La classe moyenne, quoi.
Voilà, la classe moyenne, et elle trinque.
C'est ceux qui trinquent le plus, hein, de toute manière. Hein. Bon, après, bon, t'es pauvre, malheureusement. Il ne
faut pas oublier aussi qu'il y a eu le RSA qui a aidé un petit peu.
C'est-à-dire le RSA qui a aidé un peu.
En 2013, c'est l'apparition du RSA.
Ah.
Oui, mais avant, il y avait l'RMI.
Il y avait le RMI,
RSA, ça s'arrêtait uniquement quand tu ne travaillais pas. Alors que le RSA, quand tu reprends une activité... On te complète.
Petit, oui,
complète
mais
un
c'est.
Petit peu.
Alors, il faut faire très attention parce que certains montants, tu perds tout.
Ah oui, mais tu perds.
C'est-à-dire que si tu gagnes 10 euros de plus que le seuil qu'ils ont fixé pour pouvoir être complété, ben tu l'as pas quoi. Donc,
ouais. Mais si on commence à parler de ça, on va revenir sur l'émission Capitale de dimanche soir.
Ah, ben bah, j'ai pas suivi.
Alors qu'est-ce qu'il y avait à l'émission Capitale Abdes, rends-nous service, moi non plus j'ai pas suivi.
Ouais, Vous avez pas vu?
Non, j'ai pas
vu. Je pensais que samedi t'as regardé OMOL.
Ah, mais j'ai regardé OMOL.
Mais il regarde tout, lui.
J'ai aussi un peu regardé Capitale.
Tu sais qu'il a trois postes de télé dans le salon. Et puis il regarde.
Bon, alors fais-nous le résumé.
Non, en fait, il parlait de. Comment dire, qu'on est les champions du monde de l'aide sociale.
En France?
En France.
Ah bon?
Ouais.
Alors comment ça se passe dans les autres pays? Il n'y a pas d'aide sociale?
Très peu.
Parce qu'aux États-Unis.
Il parlait surtout de la France, quoi. Il parlait des fraudeurs, de.
Ah, de fraude à l'aide sociale alors.
De fraude à l'aide sociale, de toutes les personnes qui normalement ont des revenus assez conséquents, mais qui quand même touchent de l'aide sociale.
Et comment ils font pour passer à travers des mailles?
Je donne un exemple tout bête. Hein. Avant, je crois que c'était juillet. Avant juillet, même les couples touchaient, les couples qui avaient par exemple qui gagnaient 5000 euros, ils touchaient l'allocation pour les enfants.
Oui, oui.
Et ça a été divisé par 3 maintenant.
Oui, oui.
Et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont enlevé aussi, c'est les 900 euros qu'on touche à la naissance de l'enfant.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'il faut les. C'est pas avant maintenant, c'est après la naissance de l'enfant que tu perçois
la prime. Sous condition de revenus.
Et sous condition, bien évidemment.
Parce qu'avant, on touchait ça un peu avant, non?
Ouais. Avant, oui,
tu touchais au 7e mois.
Au 7e mois.
Au 7e mois.
Donc maintenant, on est sûr que l'enfant est né avant de donner voir.
Dès que l'enfant est né, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas.
Il y a des gens qui prenaient et puis n'accouchaient pas, quoi.
Et c'est ça.
Parce que ça ne tenait qu'au certificat de grossesse du médecin.
Voilà,
voilà exactement.
C'était ça.
C'était juste le certificat de grossesse. Et au septième mois, on te le versait.
Ça me fait penser à une histoire, mais moi, là, elle est plus dans l'autre sens. C'est que c'est des gars qui font les assurances vie.
Mmh. Ouais. Oui, tu nous avais.
Il y a un gars, lui, le gars, il a fait une assurance vie de 300 000 euros. Or, il est là, il galère en France depuis. Et puis, il voit, il y a 300 000 euros qui vont tomber. Donc, il est allé au bled. Il a fait, ça tombe, tout. Il est allé voir. Donc, les gars ont quitté la France pour venir constater. Ils ont dit, mais le territoire, vraiment le pauvre, vraiment. Oh. Ils ont pleuré. Les gars ont versé l'argent. Bon, maintenant, il ne peut plus revenir en France, sauf sur une fausse identité. Ouais. Donc, j'ai dit, dans ces histoires de contrôle-là, il y a toujours moyen de truander.
Et puis, de toute manière, c'est sûr que ce n'est pas honnête de ruser pour toucher des aides auxquelles on n'a pas droit. Mais en même temps, là-haut, là, ils ne donnent pas l'exemple. Hein.
Oui, par exemple.
Parce que ce n'est pas sur 100 ou 200 euros qu'ils escroquent l'État, eux, il faut rajouter quelques zéros. Et malgré ça, ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc, moralité, voilà, vivons le plus honnêtement possible.
Mais comme on dit, les plus gros voleurs sont à la tête de l'État.
Arrêtons de désigner les voilà, c'est pas
les,
forcément...
Les voleurs en col blanc. Bon, on va l'accueillir quand même, parce qu'avec le C25, je ne sais pas s'il est arrivé.
Il est arrivé,
donc il est parmi nous. Alassane, bonsoir.
Bonsoir.
Rapproche-toi
bonsoir.
Du micro, peut-être une voix de vaillant. Attends, il faut ouvrir le micro. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs.
Je t'entends bien.
Ceux qui sont présents.
Bon, ceux qui sont pas présents, on les salue. Hein.
Ok.
Bon, donc Alassane, on va... parler un peu rapidement du sujet parce que ça te concerne un peu indirectement, parce que tu es président d'une association qui s'appelle La Main Tendue. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer en trois mots ce que c'est?
En trois mots, ça va être difficile.
Non, bon, je sais que vous faites des maraudes, c'est ça?
C'est énorme. En fait, ce qu'on fait sur le terrain, nous, c'est justement pour répondre à ce fléau justement qu'on appelle la pauvreté, la misère, dans la rue. Donc, nous avons pris la décision de justement aller au-devant. Donc sur le terrain, dans la rue, donc nous faisons avec mon équipe donc des maraudes. Ce qu'on appelle des maraudes, c'est aller à la rencontre de ces personnes nécessiteuses et leur apporter donc, un repas. Donc dans ce repas, nous mettons donc, un plat
bon,
chaud.
Bon, ça va être pendant ton détail. Mais moi, je voulais que tu parles de ça par rapport au débat qu'a lancé Abdes sur le recul de la pauvreté.
Donc,
est-ce que sur le terrain, toi, tu sens ça?
Moi, je ne le sens pas du tout. Donc, le recul de la pauvreté, nous, on ne le voit pas. On voit qu'il y a une recrudescence, justement, de personnes, on va dire, pauvres, mais qui le sont devenues au fur et à mesure, et surtout avec les accidents de la vie. Il y a des personnes, moi, j'ai eu à servir un ancien médecin, qui était dans la rue, qui est tombé bas, on va dire, suite à une rupture familiale. Et nous avons aussi donc, des jeunes de 19 ans. Donc,
c'est ce que j'allais dire.
Dimanche dernier, pareil, un jeune de 19 ans. Et lui, par contre, il s'est retrouvé dans la rue comme ça. Donc, il ne connaît aucune aide. Il ne sait pas où s'orienter, etc. Ça fait un an qu'il est dedans. Ça fait un an qu'il est dans la rue. Moi, je vais parler des travailleurs sociaux, de tout le système qui a été mis en place par l'État pour accompagner ces personnes nécessiteuses. Et il n'était pas au courant. Et malheureusement, dans ces structures-là, il y a des personnes qui sont accueillies, mais il y a eu beaucoup de vols aussi, beaucoup d'agressions, beaucoup d'insécurité, qui fait que les personnes, de fil en aiguille, vont se marginaliser en fait. Mmh. Et donc ce sont bah, la clientèle de personnes qu'on retrouve dans la rue.
D'accord. Ben Abdes Pedia, tu vois sur le
ça c'est les belle transition en
les,
tout cas.
Les statistiques nous donnent le fait que ça baisse, mais
mm-hmm. non mais ça baisse c'est des statistiques, mais oui. En réalité faut bien comprendre que par exemple le seuil de pauvreté des jeunes est en train d'exploser, surtout des jeunes étudiants.
Des jeunes étudiants.
Les jeunes étudiants, il y a des jeunes étudiants qui peuvent même pas manger ou aller voir un médecin. Parce qu'ils n'ont pas les moyens.
D'accord.
Et à côté de ça, on a les prix des loyers qui augmentent et tout le reste. Donc,
Et puis des conditions de plus en plus.
Les prix des loyers vont baisser.
Vont baisser.
Mettre combien de pourcents ? 0,
quand, voilà, quand Abdel dit ça baisse, là, ça dit que ça baisse de 5 centimes. Hein.
Ah non, à Lyon, je crois que c'est de 5,3%.
Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est pas, de 1000
ça veut
euros,
dire quoi en chiffre ?
En fait, en chiffre, ça fait
50 euros.
En chiffre, si tu veux, par exemple, tu prends un T3 qui va te faire dans le privé, qui va faire 600 euros.
Où tu trouves un T3 à 600 euros ?
On n'est pas sur la même planète.
Fais-moi rire. Où tu trouves un T3 à 600 euros ?
À part si c'est un T3 dans le social.
Excuse-moi, oui.
Pas le social, c'est les privés.
Non, non, si
c'est
tu parles du privé...
On va partir sur un T2 à 600 euros.
C'est mieux.
Et en fait, si tu veux, ça baisse à peu près d'une centaine d'euros parce qu'il y a trop de personnes qui ont du mal à se loger. Mmh. Et comme on demande beaucoup de garants, etc., les gens... n'arrivent pas à louer leur
bien. Appart. Ouais. Mais déjà, ils ont enlevé le coût de 2 mois d'avance de loyer.
Oui, c'est un mois.
C'est un mois, donc déjà, ils ont essayé de faire des efforts, mais c'est vrai que c'est pas suffisant.
C'est un mois, ça fait déjà longtemps. Mais
vu les salaires pas... qui n'augmentent
et puis,
pas.
Voilà, on demande à chaque fois
trois fois le prix du salaire.
Bon, c'est vrai que c'est chaud. Donc, si dans la famille, on a personne qui gagne 3 fois.
Tout à l'heure, tu parlais du RSA, que certains touchent le RSA. Je peux dire sincèrement, avec un RSA, tu ne payes pas un loyer.
Ah non.
J'ai eu aussi le cas d'un de nos vieux à Chibani, comme on l'appelle, pareil, qui touchait une petite pension de retraite. Et ben, au bout de 6 mois, ils se retrouvaient à la rue parce qu'ils n'arrivaient pas et à la fois à payer son loyer et à se nourrir.
Ouais, bien sûr.
Donc,
bien
sûr. En fait, là, on est vraiment
dans une impasse
où, justement, il y a beaucoup de personnes qui s'appauvrissent. Il y en a d'autres qui s'enrichissent, comme elle disait tout à l'heure. Et c'est dans les hautes sphères, malheureusement. Après, nous, à notre niveau... qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'il faut descendre dans les rues, aller
ça, on va en parler tout à l'heure. Alassane, toi, tu es motivé ce soir.
Il a bien raison.
Il a le cœur sur la main.
Voilà, il a le cœur sur la main. Il aura son quart d'heure à lui, ses 20 minutes, son heure
plus
à lui.
Même
donc,
plus.
Amis auditeurs, 04 78 21 05 95. Et il s'appelle Alassane, il a la main tendue. Il est venu seul parce qu'il paraît que les autres sont sur la maraude. On continue. Choco, on part avec toi sur ton écho des maquis.
Oui, alors moi, mon écho des maquis, c'était la rentrée des classes et les réunions de parents d'élèves, enfin les réunions avec les professeurs, les parents d'élèves, et j'étais un peu choquée de voir l'absentéisme des parents face quand même au destin de leurs enfants. Après, c'est les premiers d'ailleurs à se plaindre du dysfonctionnement du système. Voilà, moi j'étais outrée de voir autant d'absents au rendez-vous.
Moi, ça me choque même plus.
Oui, alors voilà, justement, pourquoi ça, c'est quand même pas normal que les parents ne soient pas présents pour leur gamin.
Et les enseignants ne sont plus choqués.
Mmh. Ouais. Malheureusement, on n'est plus choqués.
Ben, c'est pas normal. Et puis d'ailleurs, je me demande si on peut pas mettre en place un système, par exemple, pour les aides. Parce que quand ils reçoivent les aides de rentrée scolaire, là, ils sont contents de les recevoir.
Ils nous prennent la tête. Je t'explique. Première semaine, ils nous prennent la tête pour avoir leur certificat de scolarité.
D'accord.
Ah, mais c'est tous les jours, t'en as deux ou trois qui vont te dire « Mais quand est-ce qu'on aura le certificat de scolarité ?» Quand est-ce qu'on aura
Moi, je pense qu'on devrait le délivrer après la réunion.
Et malheureusement, après, il y en a qui disparaissent. Hein.
Ben, c'est pas alors, vrai. Le problème des aides, des bourses, etc., certificat de scolarité, c'est bien évidemment l'éducation nationale, elle va se cogner à plein d'opposition. Mmh. Hein, si on dit demain... les élèves qui ne sont pas assidus, les élèves qui ne viennent pas, les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants n'auront pas d'aide, de bourse, etc. On imagine bien qu'on va avoir plein de socialistes qui vont débouler, etc., qui vont dire non. Et puis en même temps, comment faire ? À quel moment dire, tiens, bah, lui n'aura pas le droit à sa bourse et lui l'aura ?
Non, mais c'est un peu plus compliqué encore. Ce que moi j'ai vu, en tout cas à mon niveau, moi je suis maman d'un petit de 10 ans, donc il est en CM2. Moi j'ai vu que, par contre, je ne sais pas, c'est quand même l'entrée au collège l'an prochain. Il y a quand même des questions importantes à poser pour savoir comment ça va se passer. Et enfin, j'étais quand même très surprise de voir certains parents absents, sachant que je les connais et je sais que c'est pas des gens qui bossent, par exemple. À la limite, quand c'est des parents qui bossent, qui n'ont pas le temps et tout, je peux comprendre. Mais quand c'est des parents qui sont disponibles, après, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, le prof ? Il va repérer les parents qui étaient là, qui n'étaient pas là. Et qu'on le veuille ou pas, ben, le parent qui n'était pas présent, ben, le prof, peut-être pas, je ne parle pas de vous directement, non. Mais je sais qu'il y a des profs qui vont peut-être mettre de
côté l'élève.
Peut-être être moins attentifs sur certains élèves.
Alors, tu sais, nous, si on le fait dans nos établissements, ça va être compliqué parce que, je vais te dire, moi, sur toute une classe, en réunion parents-professeurs, j'ai eu un élève. Donc, si je devais apprécier qu'un élève, ce serait très compliqué.
Non, mais c'est énorme.
Alors, voilà, pour te dire, un élève. Donc, quand on a fait une journée de travail de 8h à 17h30, qu'à 18h, on attend les parents pour une réunion parents-professeurs, alors qu'on a travaillé 8h, et qu'au final, on a un élève et qu'on reste jusqu'à 20h, je peux te dire que ça fait vraiment mal au cœur.
C'est un manque de respect déjà pour les parents.
On a un auditeur à l'antenne, on va le prendre, il s'appelle Anès. Bonsoir, Anès.
Bonsoir, Anès.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez l'antenne. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ?
Bah, c'est deux fois quel sujet. Moi, j'ai appelé pour agir concernant le milieu associatif parce que je sais que mon collègue, il est avec vous ce soir.
Ah.
Il est toujours là, monsieur Nguyen à la salle.
D'accord, c'est lui, hein. C'est lui-même.
Est-ce qu'il est là d'abord ?
Il est là, il va vous passer le bonjour.
Il est là. Bah, il m'a donné un faux numéro de la radio.
Il a donné un faux numéro de la radio.
Et une fausse antenne aussi.
Voilà. Et quand vous êtes cherché sur Google, j'ai trouvé le bon numéro.
Ah, c'est ça qui est bien. C'est avec Internet,
merci
on trouve
Internet.
Tout.
Merci Internet.
Bon, avec alors, exprimez-vous sur la vie associative, parce que vous êtes un collègue d'Alassane, ça l'a maintenu. Vous faites des maraudes aussi ?
Je suis un collègue et un frère de M. Nguyen d'Alassane. Oui. Et là, je me dirige justement, je suis un peu en retard pour la maraude. Mes collègues, ils ont déjà commencé.
Et vous allez où pour faire la maraude, là ?
Là, je vais rejoindre le secteur Perrache.
Vous allez à Perrache, place Carnot, c'est ça ?
On fait un peu tout, la gare, place Carnot, et après, on va jusqu'à Bellecour et on revient. Ça
alors, ce que vous allez faire, puisqu'on aime bien le direct sur Maquis Pluriel, c'est que quand vous serez sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous faire vivre en direct un peu ce que vous faites ?
Bah écoutez, bah y a pas de souci.
Voilà, nous rappelez, puis vous faites vivre en direct, ça sera bien comme ça, on verra quand même concrètement.
Mes collègues, et je vous rappelle, et on fera un direct avec vous.
Super. Donc on attend que vous nous rappeliez pour pouvoir nous faire vivre ça en direct, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'une maraude. Ils sont installés derrière leur canapé, bien au chaud, et ils savent pas ce que c'est qu'avec la température qui commence à faire, ce que c'est qu'une faire une maraude. Alassane, est-ce que tu as un mot pour Anès ?
Ok.
Bon, bah écoute, bonne maraude à toi, et je te confie donc nos chers bénévoles. Et comme il disait Christophe, effectivement, ce serait une très belle expérience à faire vivre aux auditeurs. Et si tu peux, par la même occasion, essayer de voir un bénéficiaire et à la limite lui passer ton téléphone et de lui-même, de vive voix, il nous dira parce que c'est réellement la galère dehors.
Merci.
Pas de soucis, bah,
merci Anès, on compte sur toi. Hein.
Bénévolement aussi pour la radio, un reporter sur place,
il n'y
a pas de problème.
Bénévolement, merci. On est ensemble.
Merci.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.
Merci, merci Anès.
04 78 21 05 95, un peu d'émotion sur le plateau. On est sur le terrain là, hein. Mmh. On sort quand même du Facebook, là. De Twitter, des choses qui marchent bien. Là, on va aller sur le terrain, on est du côté de Perrache. Alors, on était sur les parents d'élèves. Alors,
t'as peut-être quelque chose à dire, Christophe ?
Sur les parents d'élèves, moi, ce que je voulais dire sur les parents d'élèves, c'est que je trouve que je leur en veux énormément. J'en veux énormément aux parents d'élèves. Parce que les élections de parents d'élèves ont lieu actuellement, qui vont avoir lieu autour du 3 octobre, ou plus tard le 8. Il faut savoir que c'est les seules élections où on n'a pas besoin d'être français pour voter. Pas besoin d'être français pour se voter à ces élections. On n'a pas besoin d'être membre d'une fédération de parents d'élèves pour se présenter. Et je remarque qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qu'on reproduit, la fédération de la FCPE et puis la PEP, qui se partagent un peu les parkings. Et puis les autres parents, ils ont tellement peur. Ils sont frileux par ça, par rapport à ça. Ils se disent, ah, comme je ne parle pas bien français, comment je vais faire devant les parents pour parler, devant le principal, devant le directeur d'école ? Ils n'osent pas. Moi, je lance un appel solennel ce soir. Si tu es devant ta télé, là, tu nous écoutes, ou devant la radio, n'hésite pas à te présenter. Si tu veux qu'on t'aide, on va t'aider à te présenter, mais il faut faire bouger les lignes. Mais c'est toujours les mêmes qui sont candidats, c'est toujours les mêmes qui décident à votre place, et puis vous êtes là, vous subissez.
C'est vrai.
D'accord.
Et c'est vrai que quand un de nos enfants est victime de discrimination, parce que ça peut arriver, parce que les profs aussi sont des êtres humains aussi, ils ont leurs idées politiques, ils ont leurs idées, voilà. Donc, je pense que si on, il faudrait quand même avoir des représentants qui nous ressemblent, qui ressemblent un peu plus aux classes d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes.
Et moi, je dis que quand il y a un délégué parent qui est dans un conseil de classe ou un délégué parent qui est au conseil d'administration, et ben les professeurs ne réagissent pas de la même manière.
Ça change la
donne. Je vais donner un cas concret. Quand le petit Mamadou, j'ai dit Mamadou par hasard, hein, il doit avoir un conseil d'orientation. Quand il y a le parent qui est là, on dit « Ah, Mamadou, il pourrait faire une seconde générale. » Mais quand Mamadou n'est pas là, on dit « Ah, mais ses parents aussi, mesquines, vraiment. Ah, si on l'envoie là-bas, est-ce qu'ils pourront payer ?» Allez, on l'envoie en lycée professionnel, il va faire un CAP chaudronnerie.
Voilà, ça
s'appelle la discrimination indirecte. C'est-à-dire qu'on pense faire du bien et on l'oriente dans le mauvais côté. Donc, je dis aujourd'hui, toi qui nous écoutes là, n'hésite pas à nous appeler 04 78 21 05 95. Tu vas sur Maki Pluriel, tu nous envoies une box si tu veux pas qu'on connaisse ton nom. Mmh. On va t'orienter, mais ça suffit. Aidez vos enfants, ils vont réussir.
Exactement, ils ont besoin de nous.
Parce qu'aujourd'hui, on les classe et ça devient de pire en pire. L'échec scolaire est là et nous fatigue tous.
À la salle, vous voulez intervenir.
Ouais, ben je voulais intervenir parce que tu as raison quand tu dis que les parents, ils ne sont pas forcément, tu vois, la plupart, ils parlent pas forcément bien français. Et malheureusement, ils ne suivent pas l'orientation de leur enfant. Qui peut finir en plasturgie, chaudronnerie, tandis que l'enfant, peut-être, il a envie de réussir, partir dans un truc commercial, ou plus dans tout ce qui est du domaine de scientifique, etc. Mais si on les appuie pas, si on les pousse pas à aller de l'avant, et que justement, ses parents, ils sont pas aussi, on va dire, acteurs de la réussite de leur enfant à l'école, et ben, malheureusement, ce sera pareil. Donc j'ai l'exemple concret
d'une petite sœur d'ici qui est avocate aujourd'hui, qui s'est retrouvée en BEP parce que ses parents savaient à peine lire français, donc ils avaient confiance en l'orientation de l'école. Elle s'est retrouvée en BEP. À l'époque, il y avait les premières d'adaptation. Elle a fini première BEP, première adaptation. Elle est allée en lycée général. Elle a eu le bac avec mention. Elle a eu son doctorat en droit. Elle était la première de sa classe. Elle ne lui a pas trouvé de stage. Elle a encore continué. Elle est aujourd'hui l'avocate au barreau de Lyon.
C'est une battante.
On peut lui passer un coucou. C'est maître Aminata Sonko, qui est une sœur parmi nous, qui a galéré comme ça. Donc aujourd'hui, quand elle voit le système tel qu'il se passe, elle a les larmes aux yeux parce que combien sont nos jeunes qui payent cette
situation.
Donc nous, on est là, on vous soutient. On est ensemble. Donc si toi, tu veux aujourd'hui, inscris-toi.
C'est ça.
Et puis ne laisse pas les autres décider pour toi. Il faut décider aussi. Donc même quand on dit que tu n'es pas français, tu votes.
Mais est-ce que, j'ai une question, est-ce que le système éducatif, le système français va aussi vers ses parents qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui n'entendent pas bien ou qui ne comprennent pas bien le français, à les inviter à venir à tout ce qui est conseil parents.
Je pense que ça dépend des secteurs.
Parce que voilà, justement, il faudra aussi les impliquer, ces gens-là.
Moi, je sais que, entre guillemets, moi, j'habite dans l'Ouest lyonnais, même si actuellement, l'actualité là-bas n'est pas très bonne. Et c'est quand même un endroit, on va dire, à peu près un peu chicose, même si je suis dans un quartier quand même très populaire. Mmh. Le souci, c'est que dans ces endroits-là, on ne calcule pas vraiment l'étranger. Mais par contre, quand tu vas dans un endroit où on a un peu plus l'habitude de la communauté et tout ça, donc les professeurs ont un peu plus l'habitude. Donc à partir du moment où tu es plus volontaire, déjà, tu es mieux apprécié. Mais moi, j'ai vu des gens très volontaires, des mamans très volontaires qui portent le voile. Au limite, on ne les regarde pas. Limite, on ne leur parle pas. Limite, on ne les calcule pas. Mmh. D'ailleurs, même quand elles se portent volontaires pour sortir les enfants pour les sorties, tout ça, on leur fait bien comprendre qu'on n'en veut pas.
Qu'on n'en veut pas.
J'ai eu un cas aussi, c'est exactement ça, sur Paris. Donc, c'était une femme qui était voilée, qui voulait accompagner la classe sur une sortie à l'extérieur. Mmh. On lui a dit très concrètement, que directement, c'était pas possible.
Voilà.
Parce que par rapport aux enfants, par rapport aux trucs, etc. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la discrimination.
Exactement.
Ah, bien sûr.
Merci.
C'est une forme de discrimination. Ah ouais. Parce que, bon, après, si c'était le boulot, à la limite, bon, je peux plus ou moins comprendre. Mais par contre, quand c'est pour accompagner des enfants, je ne vois pas en quoi les compétences sont remises en question par rapport à la tenue vestimentaire. Je suis désolée.
Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles maternelles qui ne font plus de sorties ou d'écoles primaires qui ne font plus de sorties parce qu'ils n'ont personne
pour les accompagner. Voilà.
Oui.
Ils n'ont plus personne.
Et finalement, c'est qui trinque ?
Les enfants.
Pas normal. Donc, j'espère que dans
Je relance mon appel, les parents, allez voter, inscrivez-vous. Si vous ne votez pas, on va décider pour vous.
C'est ça.
Parce que ça, il faut voir en conseil de classe, moi, pour mon expérience, quand vous n'êtes pas là, on passe. Il suffit de voir quand le délégué, même élève, est là, certains professeurs changent de discours.
Bien sûr.
Donc, quand les parents sont là, c'est encore autre chose.
C'est ça.
Non, mais moi, ce que je trouve encore plus regrettable, c'est quand tu as des élèves qui sont, par exemple, en terminale. en terminale, où tu vas expliquer comment va se passer l'année, comment au niveau du bac, quelles sont les orientations, etc. T'as trois familles.
Mais alors après, je vais aller dans, enfin, le lycée, le bac, tout ça. Bon, c'est vrai que ce sont quand même des enfants, ce sont des grands ados. Ils nous disent pas forcément tout parce que moi, je suis aussi maman d'une grande adolescente. Donc, par exemple. Je pense que s'il y a réunion, tout ça, elle est censée me le dire elle-même.
Mais nous, on envoie des courriers.
La police, tu vois.
Nous, on envoie des courriers. Hein.
Par contre, pour mon petit.
Au domicile des parents.
Moi, j'ai pour l'instant pas encore reçu de courrier pour les réunions, tout ça. Par contre, pour mon gamin qui est en primaire, c'est quand même carrément plus cadré parce que tu sais spontanément qu'il va forcément y avoir une réunion d'information et tout. Mais c'est vrai qu'après, quand il passe au lycée, je pense que c'est déjà un peu plus délicat, mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même suivre ses enfants jusqu'au bout de leur scolarité.
Mais je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai. En ma possession, des bulletins d'élèves que j'ai qui sont en terminale.
Ouais.
Mais comme on remet les bulletins aux parents, j'ai encore des bulletins de seconde.
Oui. C'est pas vrai.
Qui sont jamais venus récupérer. Jamais... Et ce que j'aurais dit, hein, et j'ai dit au proviseur et à l'ensemble de l'administration, je leur ai dit, je leur donne pas tant que je n'ai pas vu les parents.
C'est normal.
Bah oui.
Moi, je pense que tant que c'est comme ça, on ne devrait pas accepter les parents, les élèves tant qu'on n'a pas vu les parents.
Ça
réglerait pas le problème.
C'est ce qu'on dit.
Voilà. Donc moi, je pense que là-dessus aussi, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux pas que ton enfant, tu viens pas chercher le bulletin de tes enfants, c'est que tu veux pas que ton enfant fasse la scolarité. Ben on l'accueille pas. Et là, on verra les parents tout de suite. Mais là, personne veut prendre ses responsabilités.
Moi, je sais que j'ai été confrontée à un cas particulier pour mon gamin parce que quand il récite sa récitation, par exemple. Le prof, même s'il est correct, même si l'arrestation est bien faite, il va lui dire oui, c'est bien, mais c'est pas mieux que ce grand, le grand, je ne sortirai pas un prénom, le grand, on va dire Pierre. Ça ne vaut pas le grand Pierre. Et à côté de ça, on a un nouveau système de notes, c'est-à-dire qu'on met R, VR, AR, c'est-à-dire R c'est réussi, VR c'est vers la réussite, AR machin. Donc je lui ai posé la question tout simplement, j'ai dit si vous avez mis ce système de notation en place, c'est peut-être aussi pour ne pas humilier l'enfant. Il m'a dit oui, c'est tout à fait ça. J'ai fait alors si j'ai bien compris, quand vous, au lieu de récompenser l'enfant qui a bien travaillé, vous lui dites que c'est pas assez bien et c'est pas comme le roi, enfin comme le grand machin. Mmh. J'ai dit est-ce que c'est normal ? Il m'a dit je reste un être humain. En attendant, si moi j'étais pas intervenue, si j'en avais pas parlé, ben ça serait passé aux oubliettes. Il aurait fait ça toute l'année. Mon gamin aurait perdu confiance en lui et d'autres gamins aussi qui auraient été confrontés. Donc je pense quand même que nous en tant que parents on a une responsabilité sur le bon déroulement de la classe.
Moi je connais pas l'enseignant en question mais franchement
c'est même le directeur.
Se permettre de dire ça c'est deux erreurs très graves. Ouais. Premièrement il complexe ton enfant qui a récité, complexe inférieurement en disant c'est moins bien que l'autre et puis complexe supérieurement l'autre. Qui va commencer à se brûler des mécaniques bien en sûr. Disant moi je suis le meilleur de la classe, etc.
Mais surtout, je pense qu'il doit faire ça en plus en public.
Mais il le fait en public, oui. Et j'ai même appris.
C'est devant.
C'est humiliant.
Devant toute la classe. Et j'ai même appris encore, ce qui m'a encore même choqué, c'est que les enfants décident des punitions de leurs camarades. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple le professeur n'a pas assisté à ce qui s'est passé entre deux gamins, ou s'il a fait une bêtise, il va demander à la classe. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ?
C'est la télé-réalité là-bas chez vous.
C'est la jungle.
Mais même quand il a présenté son équipe, moi je sais pas, il a présenté les enseignants. Alors lui c'est un stagiaire dans l'enseignement. Il sera secondé par une autre stagiaire. Alors toi tes parents, professeur de CE2, stagiaire. Bon, s'il est là c'est qu'il a le niveau. Présente simplement l'enseignant, donne-lui confiance et mets les parents confiance pour que les élèves.
Les parents ils n'ont pas besoin de savoir s'il est stagiaire, s'il est contractuel.
Moi j'ai exactement.
En tout cas, Choco. Oui. Félicitations, tu es une parente d'élèves investie. Si tous les parents pouvaient faire comme toi, les professeurs ne feraient pas.
Après, je ne suis pas une maman parfaite, mais j'essaie de
faire
de mon mieux.
On n'a pas dit parfait, on reconnaît que tu t'es investie.
Donc, mais on essaye.
Si tu étais parfaite, tu ne serais pas avec nous.
Ah, vraiment, quand tu dis ça, vraiment, les gens n'aiment pas les gens.
Oh, c'est réducteur, là.
Si tu étais parfaite, tu ne serais pas avec nous, tu serais dans les hautes sphères.
N'importe quoi, je serais avec vous quand même.
On est là, on est ensemble. En tout cas, félicitations. Si vous pouvez prendre l'exemple sur Choco, allez aux réunions et puis dites à l'enseignant d'une manière courtoise, sans l'agresser. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire pour votre enfant. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas que ce soit aussi votre petit chouchou. Hein. Mais les enfants, là, ils ont grandi. Un enfant de 12 ans, ça commence à devenir un adolescent. Donc, quelquefois, il répond de façon un peu, vous voyez, un peu à la maison. Donc, tout ça, là, c'est gérable, mais soyez présents. Et vous verrez que les choses vont aller mieux et vous ne vous laisserez pas faire.
Et puis, petite parenthèse, parce qu'il y en a qui jouent un peu sur l'histoire, la raison de la barrière de la langue. Mmh. Hein, il y a des parents qui disent on vient pas parce qu'on parle pas le français. Je pense que ça fait 2-3 générations qu'on est installé et que tout le monde a un grand frère ou une grande sœur qui pourrait venir à la réunion accompagner des parents.
Non, parce que quand il faut donc, demander des droits, ils savent parler français.
Voilà, donc cette raison-là, entre guillemets, qui est vraiment inutile à nous dire, c'est mes parents comprennent pas le français. Je pense qu'à un moment, faut
c'est
arrêter.
Hein.
Non, mais c'est même plus de la mauvaise foi. C'est faut pas oublier que dans les écoles maintenant, il y a aussi des professeurs qui sont issus de la diversité. Hein.
Oui, mais quand bien même.
On peut très bien. Moi,
non, mais il y a toujours une solution. Non, mais demander à une voisine,
voilà.
Quand bien même, l'enseignant n'aurait pas le droit de parler une langue étrangère, etc., face à d'autres parents. Moi, je veux dire. À mon âge, mes parents allaient aux réunions et ils ne parlaient peut-être pas aussi bien le français que d'autres parents qui ne viennent pas aux réunions.
Donc c'est un faux argument.
C'est un faux argument parce que moi, jusqu'au baccalauréat, mes parents venaient aux réunions.
Bon, toi qui es jeune, qui nous écoute là, qui place les mensonges, les flocons avec tes parents, non, comme tu ne comprends pas bien le français, t'es démasqué. Ok,
c'est toi là, t'es démasqué.
Tu es maman, toi aussi, si on dit tu ne comprends pas bien le français, ta fille dit non, faut pas aller, tu vas me mettre la honte, vas-y. Oui. Elle ment, hein, d'accord. Aujourd'hui, on est là pour vous soutenir, un parent d'élève. On sait que c'est pas un métier facile, mais on est là aujourd'hui.
À quand l'école des parents?
Hein, à l'école des parents.
C'est même pas un métier d'être, ouais.
Parce que c'est vrai, on demande beaucoup au petit bout, mais en même temps, est-ce que les parents ont le mérite d'avoir ces enfants?
Et on demande beaucoup aux enseignants.
On leur demande beaucoup aux enseignants et aux enfants, mais les parents là-dedans, on leur demande.
Bon, les parents là, moi ce soir aujourd'hui, c'est votre spéciale dédicace. Vous avez fait des enfants, vous êtes heureux. Mais essayez de penser à ça. On a un auditeur à l'antenne. Oui. Allô?
Allô?
Oui.
Oui, bonjour. Je fais partie de la main tendue.
Oui.
L'association caritative qui s'occupe des maraudes.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Nous sommes actuellement là en maraude sur le secteur de Perrache.
Oui.
Malgré la pluie, et il est quand même malheureux de voir que nous avons environ une quinzaine de personnes actuellement dehors. Sous le pont, allongé, enfin voilà, on essaie de leur apporter un peu de chaleur humaine et puis avec un repas. Donc je ne sais pas si Alassane, notre président, vous a expliqué un peu en quoi étaient constitués les sacs.
Non, ce que vous allez faire concrètement, parce qu'il y a Anas aussi qui vient de nous rejoindre, à deux, vous allez nous décrire un peu concrètement comment ça s'est passé depuis que vous êtes arrivé à Perrache, qui est-ce que vous avez vu et comment vous procédez. Et après vous nous décrirez éventuellement, et mettez-vous à la place de l'auditeur qui n'a jamais assisté à une maraude. Comment ça se passe?
Alors, on a un point de rendez-vous sur Perrache. Donc, tout d'abord, on a un listing pour recenser un peu tous les besoins, c'est-à-dire les repas, l'eau, les gâteaux, les fruits. Donc, on se rassemble là-bas sur le secteur de la gare. Et ensuite, on se divise en plusieurs groupes. D'habitude, nous sommes une vingtaine de bénévoles.
20 bénévoles?
20 bénévoles, voilà, on limite parce que bon, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des personnes pour faire à manger, parce que bon, nous sommes bénévoles, mais nous travaillons aussi à côté, donc il est difficile de faire des repas. Donc on distribue environ une centaine de repas par soir, enfin par maraude. Donc là, l'été, nous tournions à une maraude par semaine. Avec le plan grand froid, on va passer à deux maraudes le mardi et le jeudi. Donc pour en revenir à l'organisation, alors on se rassemble sur le secteur de Perrache, on divise un peu les groupes en 4 ou 5, et ensuite on se disperse sur Lyon. Donc on a le secteur de Pardieu, la gare ainsi que le centre commercial, Gerland, Villeurbanne, et aussi la ville, donc Perrache. On fait Perrache jusqu'à Bellecour environ, et s'il nous reste, on va jusqu'à Hôtel de Ville.
Donc concrètement, vous distribuez à manger
aux personnes dehors. Enfin, mais j'aime pas trop le terme nécessiteux parce que bien souvent, nous rencontrons des gens qui ont beaucoup, beaucoup de qualité humaine, peut-être bien plus que des gens qui ont tout, on va dire. Donc on fait des sacs avec une bouteille d'eau, une barquette avec un repas chaud, un gâteau, un fruit. Et nous partons. Donc là, nous sommes sur le secteur de Perrache. On a voulu visiter une personne qui était sous le pont à la sortie de l'autoroute, là, pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Et on a trouvé, porte-close, c'est le cas de le dire, donc ils avaient, des 200 abris avaient trouvé un refuge sous le pont, une espèce de petit tunnel. et on a eu la surprise d'arriver et que le mur était muré. Enfin, que le... Pardon.
Le tunnel était muré.
Le tunnel était muré, avec des gros parpaings jusqu'en haut, donc on n'a pas pu voir ces personnes. Donc ouais. On est revenu là sur le secteur de la place Carnot, où d'habitude il y a beaucoup de personnes sans-abri qui sont dans ce secteur, qui se mettent un peu au chaud dans la gare. Et là, nous sommes actuellement avec une vingtaine de personnes environ. On est en train de leur distribuer des sachets, et ainsi que le café et le thé, pour qu'ils se réchauffent un peu, parce que c'est vrai que ce soir, il pleut,
en tout cas, pas mal. Félicitations. Il y a Anas aussi qui est avec nous. Anas.
Oui, je t'écoute.
Alors, vous deviez nous faire le reporter bénévole, comme vous avez dit. On a eu...
Écoutez, je suis à côté de mon ami Idriss.
Ouais, vous êtes rejoint.
Il nous a bien... expliquer, détailler notre mission à la marotte.
Oui.
Je pense qu'il a bien fait.
D'accord. Est-ce que sur le plateau, vous avez des questions à poser à Idriss et à Anas?
Moi, j'aimerais savoir les repas et tout ce que vous distribuez, vous les avez comment?
Alors, moi, je vais me permettre de répondre. Anas, vous êtes là?
C'est les maraudeurs, donc les maraudeurs qui les préparent à la maison. Donc nous, on achète tout ce qui est d'engrais, la première matière et tout. Et après, on a des cuisinières volontaires.
Et il faut savoir que nous sommes une association loi 1901, donc nous n'avons aucune subvention d'aucun organisme. Donc ce ne sont que des dons d'argent ou de denrées alimentaires. Non,
je vous rassure, j'ai des échos, vous risquez d'avoir les subventions sous peu.
J'espère. Bah oui,
vous allez avoir beaucoup de bénévoles du coup. Hein.
Écoutez, il n'y a pas de problème, tout le monde est bienvenu.
On va appeler Radio Pluriel tous les jours.
Bon, appelez-moi.
C'est tout mardi.
Faut appeler Radio Pluriel. C'est pas Radio Pluriel qui donne la subvention, hein, c'est les échos qu'on a eu. On est dans les échos des maquis.
On va vous appeler tous les jours.
Ah, bah, très bien.
Merci.
Le président voulait dire quelque chose à Alassane.
Donc ouais, déjà un grand merci à ces bénévoles qui font en même temps reporter ce soir. Anas, Idriss et puis tous ceux qui sont présents avec vous pour tendre la main justement à ces personnes non pas nécessiteuses mais qui sont dans le besoin. Et par la suite, pour répondre à la question du frère, comme il vient de vous l'expliquer, on n'a aucune subvention. Donc en fait, on a mis en place un système à la base au début de l'association, donc en 91-92, on donnait par exemple 20 euros par bénévole. Donc 20 euros, on constituait une petite caisse. Et avec ces 20 euros, on achetait tout ce qui était matière première, donc riz, pâtes, de la sauce, tomates, etc. Et on voyait avec nos bénévoles qui c'est qui était disponible pour pouvoir cuisiner. Donc ce système, il s'est, on va dire, mis en place, il y a eu un roulement. Et puis après, par la suite, on a fait des appels aux dons sur le Facebook. Donc on a fait, on va dire, jouer la solidarité. Et plein de personnes nous ont répondu, nous ont rejoints, sont venus en tant que bénévoles ou sont venus simplement en tant que généreux donateurs. Et en fait, la main tendue est constituée non pas que de 20 bénévoles, mais plutôt d'un groupe de sympathisants qui sont là pour pouvoir nous aider, que ce soit financièrement, et qui sont là pour nous aider déjà au niveau matériel. Donc, il faut savoir qu'on a eu, grâce à la générosité d'un groupe qui s'appelle donc Assiette pour tous, on nous a offert une camionnette pour pouvoir mettre
Alassane, on va libérer Anas et Idriss parce qu'ils sont maraudes et ils sont pas autour du plateau.
Hein. Je voulais juste vous jouer un petit peu mon rôle de reporter actuellement. On n'a plus de repas.
C'est voilà. Fini déjà.
Malheureusement, sur le secteur de PH, on pourra leur offrir que du café parce qu'on n'a pas eu
assez
de.
Alors là,
sur 100 barquettes faites. Hein,
100 barquettes, les 100 barquettes sont parties là.
Voilà.
En combien de temps?
En fait, le besoin, je pense, il se fait vachement ressentir à l'approche de l'hiver. Mm-hmm. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue. Et surtout, aujourd'hui, vous avez aussi le flux des migrants.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On va les libérer parce que Alassane, tu leur lances un message et puis on les libère.
Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire.
J'ai juste quelque chose à rajouter, si c'est possible.
Allez-y.
C'est Anas qui parle. Merci déjà de nous avoir écoutés.
Mais c'est votre radio, il faut oser. C'est votre radio.
Moi, de ma part, en tant que bénévole ici dans l'association, je remercie notre président. On va dire que c'est grâce à lui qu'on est tout ça aujourd'hui, qu'on a réussi ce travail qu'on fait
quotidiennement ou régulièrement.
Lui, là, s'il se présente aux élections, il va être élu. Hein.
En tout cas, il est humble.
Faut pas dire ça, faut pas me remercier à moi.
Bon, on vous remercie, on va vous laisser poursuivre. On a bien entendu votre message, beaucoup de courage. Et on est vraiment choqués sur le plateau, le fait que vous n'ayez plus de repas. On va parler au président pour voir comment faire pour qu'il y en ait plus. Parce que la centaine de repas est partie, il n'est même pas 21h et déjà il n'y en a plus. Donc il y en a ce soir.
Vous avez commencé à faire l'heure, les marodes ?
Malheureusement.
On vous souhaite une bonne soirée et puis beaucoup de courage.
Merci bien.
Merci à vous. On commence à partir sur le terrain à partir de 19h30, 20h.
Moi, j'ai une question à poser à Alassane, si c'est possible. J'aimerais bien avoir quand même la définition pour les gens qui ne connaissent pas forcément du terme. Maraude.
Maraude, en fait, nous, pareil, on s'est lancé dedans parce que c'était un mot qui existait déjà. Ouais. Maraude, c'est aller à la rencontre de personnes pour justement leur tendre la main. Et nous, en fait, à la base, parce que on est, on va dire, je suis à l'origine aussi de cet élan de générosité, cette association, on cherchait justement un nom à donner à cette association. Il y a pas mal d'associations qui étaient déjà créées dans la Charba du cœur,
Charba pour tous.
Charba pour tous, etc. Il y a pas mal d'associations qui étaient déjà en place. Et moi, je me suis dit, on va pas faire une association qui soit communautaire, mais une association qui parle à tout le monde. Et je me suis dit, tendre la main, c'est pareil, comme on dit, c'est une sadaka, c'est un truc qu'on peut faire à tout le monde. Et on va dire la main tendue. La main tendue à ces personnes en fait qui sont dans le besoin et
donc maraude c'est la main tendue vers l'autre.
Voilà.
C'est la maraude. Non, la maraude pour nous dans le terme marauder, maraudeur, c'est
aller vers l'autre.
Aller vers l'autre.
Aller à la rencontre de qui a besoin.
Alors ils sont parmi nous. On a eu du direct. Franchement, c'est bien cette émission parce qu'on arrive. On est en direct. On tape RH là. Hein, on sentait même le froid. On sentait les gens qui étaient vraiment dans la difficulté. Sous la pluie. Donc on est dans les échos des Maquis. On va faire une virgule musicale. Et puis on revient pour les deux derniers échos. Et puis après on va passer le temps avec Alassane qui va nous expliquer. Là, il a déjà mis l'ambiance sur le plateau. 04 78 21 05 95. Toi qui es assis sur ton canapé, qui va regarder les PSG là. Hein, pense à ceux qui sont sous le pont là-bas. Et une pensée pour eux. Et puis il faut te déplacer parce que c'est important. Il y a Glouba qui dit qu'elle s'en fait quelque chose. Tout le monde a entendu. Elle a oublié qu'elle était en direct. 04 78 21 05 95. On va faire un tout petit tour avec du côté de Groove Caraïbes. Groove Caraïbes, c'est un groupe très tendance. Si vous ne connaissez pas, vous loupez quelque chose. On va aller écouter un morceau qui est en anglais, Love Crying. On est ensemble.
Recibe mi canción que viene de mi corazón. And a few words from my favorite pulsa son. Quisiera ver tu sonrisa que llena mi soledad. Oh, saber tu sonrisa, sonrisa que llena mi soledad.
Tendance qui marche bien en ce moment. Ils sont avec nous sur le plateau indirectement, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Choco qui est choriste dans le groupe. Choco,
oui.
Un peu d'émotion, non?
Oui, hein, ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de Michael.
La voix de Michael.
Qui aujourd'hui est au Canada. Voilà. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on lui fait un gros bisou.
En tout cas, moi j'ai toujours
de l'admiration. En tout cas, et j'en profite aussi pour passer un coucou à Alain Rezac, notre guitariste, qui est juste excellent, avec Benoît et. Et voilà, et Odile que j'ai rencontré récemment qui m'a...
En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des groupes de musiciens parce que ce n'est pas facile. Tout le monde veut faire de l'art, tout le monde a envie, mais arriver à ce niveau-là, ce n'est pas facile parce que dans le groupe, il y a quand même un saxo,
il y
a une guitare basse, une guitare,
il y a une basse,
il y a des congas et puis il y a une batterie.
C'est Jean-Michel à la basse.
Et puis il y avait un clavier aussi.
Oui, on avait un clavier qui s'appelle Franck Alibar qui aujourd'hui joue pour Christophe Rivaud dans un groupe de reggae.
D'accord. Bon, mais c'est l'occasion de quand même sur le plateau quand même.
On
a une star parmi nous. Elle fait style. Comme elle vient tout à l'heure, elle dit que elle est parfaite. Elle dit non, machin. Là, on dit c'est une star. Elle dit c'est gentil.
Vraiment.
En tout cas,
les
merci.
Dis
merci, c'est tout.
Merci.
Elle rajoute. Les gens, pas les gens.
Femmes rajoutent tout le temps.
Elle est émue.
Ah vraiment.
Elle est émue. On revient sur notre dernière partie des échos des maquis. Je vais commencer et puis je pense que Glouba terminera.
Ouais, juste une petite virgule.
Vas-y.
On a un petit message inbox de la part d'Oumaïma qui nous fait un petit coucou du boulot et qui nous embrasse tous.
Beaucoup de courage.
Oumaïma. Elle a giflé personne, j'espère.
Elle n'a encore giflé personne. Elle est à l'essai, donc elle n'a pas intérêt.
Moi, j'étais pas au courant, mais tu savais que Oumaïma giflait comme ça là.
Ah bon?
Elle
met des claques.
Voilà. Elle est tendance à dos alors.
Voilà, mais là elle est à l'essai donc.
Fais-moi mal. Oumaïma. Bon courage, Yako. Tu dans le temps là, tu dois penser à tes amis
bisous,
qui sont là ensemble, Oumaïma. Alors, troisième écho des maquis, c'est mon écho. C'est sur le débat qui a lieu actuellement sur les statistiques ethniques. Alors, moi je préfère parler de statistiques de la diversité. C'est François Fillon qui a dit qu'il était pour. Alors, ça a lancé un débat de toute la catégorie des bien-pensants disant ce n'est pas possible. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les statistiques de la diversité, c'est les statistiques qui permettent de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. C'est-à-dire que moi, clairement, je suis un métis. Donc, je cocherai case noir, blanc, mélangé et puis catholique. Donc, voilà. Et puis, ce sont des statistiques qui ne sont que auto-déclarative, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à déclarer, c'est ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, mais ça permet de statistiquement voir un certain nombre de choses. Alors on a les bien-pensants qui sont sortis du bois, Caroline Forest en particulier, en disant oui, ça nous rappelle les heures sombres où à l'époque on demandait aux gens de se déclarer juifs avec l'étale jaune pour qu'ils finissent dans les camps de déportation. Cette époque abominable de la France, nous la condamnons tous. Personne ne peut se permettre de dire que cette époque-là est à revivre. On la condamne plus fermement possible. Simplement, nous disons la chose suivante. Ce n'est pas parce qu'on a eu un accident de voiture qu'on ne doit plus prendre la voiture. Aujourd'hui, ces outils sont des outils de constat. Moi, je vais faire un constat. Tout à l'heure, on parlait de l'école. Moi, dans mes classes que j'ai eues, il y a 40% de blancs. Comme si en France, il y avait 40% de blancs et que tout le reste était des non-blancs. Et on n'arrive pas techniquement à prouver que ces gens-là sont non-blancs puisqu'ils sont français. À partir du moment où tout le monde est français, il faut d'abord qu'on regarde au nom de la personne, au lieu de naissance de ses parents, pour dire ah effectivement ils ne sont pas. Donc arrêtons cette hypocrisie là. Hein. Les États-Unis que vous condamnez, qui ont vécu la ségrégation, je dis un président noir. Exactement. Nous on n'a rien vécu ici. Notre président est blanc, il s'appelle Hollande, l'autre il s'appelait ça. Ah, non quand même arrêtons. Non je dis je suis pas content sur cette histoire là. Il faut qu'on compte. Chacun a raconté et puis on va voir que dans le 6e arrondissement.
Peut-être en rapport avec ta profession.
Non dans le 6e arrondissement on voit que les appartements là c'est occupé par qui et puis on va aller au Minguette et puis on voit les appartements sont occupés par qui. Là on peut pas dire quand on parle on dit oui c'est les classes populaires faut les comprendre. Non bande de menteurs vous tous. On a qu'à mettre ça en place et puis on va voir.
C'est clair. C'est et c'est pareil pour les écoles.
Pareil, on croit. On sait que dans telle école. Aux États-Unis, on sait.
On va au lycée du Parc, On sait très bien qui on va trouver et qui on ne trouvera pas.
On va à Corba, on va voir que, comme par hasard, c'est les mêmes qui se retrouvent à Corba.
C'est vrai.
Mm-hmm.
C'est vrai.
Donc, oui, Alassane.
Juste si je peux intervenir. Dans notre association, il n'y a pas de ségrégation. Il y a autant de blancs, de noirs, de.
Mais toi, tu as employé le nom blanc, noir.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a tous le même cœur.
Tout à
on
fait.
On a le même sang qui.
Toi, tu es en campagne électorale.
Non, je suis pas en campagne électorale, mais c'est que c'est. Moi, je trouve ça honteux qu'on puisse mettre des gens dans des cases.
Mais aux États-Unis, c'est comme ça.
Oui, sauf qu'on n'est pas. Non, aux
regarde aux États-Unis.
C'est pour peut-être prouver aussi certaines inégalités.
Aux États-Unis, aux États-Unis, quelqu'un me disait que à travers le cinéma, on voit l'évolution des peuples. Aux États-Unis, quand on regardait dans les années 60 les films. Les Noirs, ils avaient des beaux de maman dans Autant n'emporte le vent. Devine qui vient dîner ce soir, c'était un Black qui arrivait, machin. Aujourd'hui, ils ont même fini à 24 heures président de la République. Ouais. Et aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle un mot. Alors là, il ne faut pas l'employer en France. Ouh là là, le mot quota. Quand vous regardez un film américain, ce n'est pas un hasard s'il y a un Pakistanais, ce n'est pas un hasard s'il y a un Noir, ce n'est pas un hasard s'il y a un Blanc ou une femme. C'est, ils ont compté. Mais ils ont un dispositif qui s'appelle le dispositif Affirmative Action.
C'est pour arriver à quel but ?
Arriver au but où le plafond de verre, on le crève. Quand on regarde aujourd'hui parmi nos élites, est-ce qu'elles sont représentatives de la France ? Regardons l'Assemblée nationale.
Non,
pas du tout.
Voilà.
Voilà.
Donc, aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas prouver que l'Assemblée nationale est conduite par des Blancs. On va vous dire, mais comment, qu'est-ce qui te prouve que lui, il est Blanc ? Voilà. Donc, ce serait des outils. Dans les entreprises, on pourrait voir. Et nous, on peut parler dans nos écoles.
Dans
on
nos
a
écoles,
des classes
oui.
où il n'y a aucun Blanc.
Aucun Blanc.
Ouais.
Voilà. Moi, particulièrement... Dans les classes de CAP que je récupère, je n'ai aucun Blanc.
Voilà.
Aucun.
Et ça, on ne peut pas le dire. Sans
voilà. J'ai l'impression d'être au bled.
D'ailleurs, même dans la fonction publique, c'est pas anodin aussi qu'il y ait plus d'étrangers. Enfin,
parce que si on a des concours.
Parce que c'est des concours anonymes.
Sont des concours anonymes. Sinon, il n'y aurait peut-être pas autant d'enseignants.
Il suffit de regarder deux éléments dans l'éducation nationale, l'inspectorat.
Oui.
Et puis les équipes de direction.
Être inspecteur proviseur, là, par contre,
le
mélange ne se fait pas.
Voilà. À l'oral, on est
limité. Jusqu'à un certain niveau, c'est bon, mais après.
Ça... Voilà. Et on va dans l'armée française, c'est ça. Vous regardez la troupe, tous ceux qui s'engagent, c'est des jeunes des quartiers, des
nos amis. Ceux qui trouvent pas de boulot.
Et dès qu'on monte officiers généraux, et ben, c'est Saint-Cyr, c'est les deux hautes cloques, les machins.
Voilà. Donc, à un moment.
Donc moi, je dénonce ça.
Oui, oui.
Simplement, je n'ai pas dit qu'on va encore refaire ce qu'on a fait à l'époque, qui est condamnable. Mais une petite analyse toute bête. Pendant la colonisation en Algérie, les Algériens autochtones, on ne les appelait pas les indigènes ?
Oui.
Pourtant, on n'a pas compté. On n'a pas dit que toi, tu es indigène, toi, tu es français. Les pieds noirs, ils étaient français à part entière. Mm-hmm. Et les autres, ils étaient indigènes. Mm-hmm. Et ça a gêné personne.
Moi, ce comptage, moi, je serais vraiment pour dans les écoles. Hein. Dans les écoles, moi, j'aimerais bien qu'au lycée du Parc, on dise 50-50.
Ouais.
Allez, qu'il y ait du mélange. Moi, j'aimerais bien que dans mon établissement ici à Bel Air, qu'il y ait autant de blancs, entre guillemets, que d'autres communautés. Moi, j'aimerais bien.
Dans les logements aussi ?
Pourquoi ? Parce que moi, je suis une professeure faite pour les CEP et je ne suis pas capable d'enseigner à d'autres. Donc, sincèrement, moi, j'aimerais ce mélange.
Voilà, moi, j'avais envie de pousser mon coup de gueule aujourd'hui parce que j'ai entendu la mère Fourest.
Et d'ailleurs, ce mélange serait plus agréable et permettrait en plus
l'ouverture d'esprit.
Arrêter de mettre les gens dans des cases, de dire... telle communauté finiront tous en prison,
exactement.
Telle communauté font trop d'enfants, etc. Donc à mélanger, moi je pense qu'il faut commencer par mélanger les jeunes pour avoir une société qui soit bien meilleure.
Et je viens sur Patrick Lozès. Patrick Lozès dit la chose suivante, à partir du moment où on discrimine, tout le monde a conscience qu'on discrimine au niveau de l'emploi.
Eh oui.
Comment tu prouves qu'on discrimine ?
C'est impossible.
Je vais te dire, moi, au dernier moment, finalement, vous n'avez pas fait l'affaire.
Voilà,
mais quand on regarde
l'ensemble,
l'échelon des cadres dans l'entreprise, on voit que, c'est bizarre, c'est monocolore. Hein.
Ouais, oui, c'est vrai.
Bizarre.
C'est vrai.
Voilà.
Et nous, on peut pas en France aujourd'hui prouver, vous ne pouvez pas attaquer au prud'homme ou au niveau de la loi. On ne peut pas attaquer parce qu'il n'y a pas la preuve.
Mmh. Moi, je l'ai subi, la discrimination au travail.
Mais
sur quoi ? Sur ton origine ?
Sur mon origine. Sur mon origine. Pourtant, ce n'était pas au niveau des diplômes. Hein. Les diplômes, je les avais, les compétences, je les avais, mais c'était au niveau de mon origine.
Et tu n'as pas pu prouver que c'était discriminant par rapport à ton origine.
Mais on ne peut pas.
Non. Mais je vais même vous dire un jour ce que m'a dit une agence intérim. Une personne qui travaillait dans l'agence intérim, elle m'a accueilli à la porte. C'est-à-dire que je n'ai même pas passé l'agence intérim. Elle a pris mon CV, elle m'a dit très clairement, avec les compétences que vous avez, partez de là. Allez voir ailleurs.
Véritable scandale. Moi, je, ça, ah, ça c'est des choses que j'ai du mal, de plus en plus, j'ai du mal à entendre.
Vous
ne trouvez pas
de boulot.
On ne peut pas dire ça. Donc, et quand on a voulu faire le CV anonyme, parce que le CV anonyme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un CV qui fonctionne comment ? Il n'y a ni le prénom, ni l'âge, ni le sexe, ni le quartier de la personne.
C'est-à-dire
qu'on regarde les compétences de la personne. Une entreprise, elle recrute quoi ? Des compétences. Elle a des besoins et des compétences en face. Elle fait matcher les deux et ça fait un emploi. On nous a dit non, vous imaginez, au final, c'est au final qu'on va, le patron choisira. Mais le patron, il n'est même pas vu.
Faudrait peut-être créer le candidat anonyme, il vient avec un masque.
Oui.
Voilà, éventuellement. Oui. Éventuellement, bah oui, effectivement, le candidat anonyme.
Le masque des anonymes.
Anonyme, voilà, non. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ne se basent pas même pas sur les compétences, les qualités de la personne. Ils se basent effectivement sur
l'apparence.
Sur l'apparence.
Voilà, c'est ça.
Même pas. T'as certains chefs d'entreprise qui se basent encore sur des choses encore plus subjectives. Les signes astrologiques.
Quand ça va, mais sur l'apparence.
Tu sais, moi, j'ai une amie qui travaille en tant que téléopératrice. Et elle est maghrébine, hein, on va pas cacher ça. Mais quand elle prend son téléphone et qu'elle appelle pour prospecter, elle s'appelle Chantal. La moitié de sa vie, elle s'appelle Chantal. Et en sortant, elle a son prénom de maghrébine.
Et c'est ces mêmes hypocrites qui vont dire.
Par contre, je me suis pas laissée faire parce que j'ai eu occupé ce poste. Oui. Et j'ai dit non, j'accepte pas. J'ai refusé.
Mais elle a pas le choix avec trois enfants.
Non, mais je comprends. Mais
voilà. Et malheureusement.
Choco, ça passe.
Choco, ça passe, mais
c'est par rapport à la cliente.
C'est ce qu'ils nous ont dit.
Moi, je suis aussi dans la communication.
Oui.
Et aujourd'hui, maintenant, quand moi je vais appeler quelqu'un en lui disant oui, bonjour, je m'appelle Alassane pour Orange, etc. Alors Alassane, est-ce que je peux lui faire confiance à lui ? Je m'appelle Pierre, je travaille à Orange, bonjour, je suis là pour vous, cher client.
C'est grave.
C'est
quand ils commencent à déballer. Ah oui, mais là vraiment on est envahi, hein. Tous ces arrivistes là.
Tout à fait.
Ces maghrébins qui m'envahissent. Nanana.
Et moi j'ai des coups de parler.
Voilà. On reconnaît tous qu'on est dans un état d'esprit qui est quand même. En apparence, on nous fait croire que tout le monde il est beau, il est gentil, mais sur le terrain, on voit que c'est du grand n'importe quoi. Donc c'était mon coup de gueule ce soir sur les statistiques.
Non mais c'est bien vrai.
Il faut qu'on mette les pieds dans le plat et puis c'est pas les Caroline Fourest, ils sont bien gentils, mais c'est pas elles qui ont le monopole de la pensée en France.
Voilà.
Non mais c'est vrai, on commence à être fatigué de cette personne. Elle est sur tous les plateaux, elle est sur France Culture, France Inter, elle est sur la télé. Elle a fait quoi dans la vie ? Voilà. Donc nous on est sur le terrain.
Ah il est remonté là.
On est sur Maquis Pluriel, nous on est là le mardi, on est bénévole et on dit ce qu'on a à dire. Elle n'est pas contente, c'est la même chose. On est ensemble, non ?
On est ensemble, il y a faute.
Soutenez-moi, non ?
Oui, on est avec toi.
Amen. Elle a dit que je suis à l'église maintenant. 04 78 21 05 95. On termine nos échos des maquis avant d'aller avec la main tendue. Gloubam.
Alors moi, c'est un sujet un peu étrange, hein, comme d'habitude. Hein.
Après le paillasson,
oui, que je n'ai toujours pas retrouvé.
Ben, ça, ouais.
Alors j'ai lu un truc qui m'a un peu... ça pose débat encore, hein. C'est l'histoire d'un monsieur, Jean Mercier, 87 ans, qui a aidé sa femme à mourir parce qu'elle avait une maladie incurable à plus de 83 ans. Et donc, il a donné des médicaments pour qu'elle puisse mourir à sa demande à elle pour éviter de souffrir et de rester à l'hôpital, sachant que sa maladie était incurable et qu'elle était condamnée. Et voilà, et donc ça relance un peu le débat de l'euthanasie, finalement. Mmh. Donc, il a été condamné à 3 ans de prison. Et
avec sursis ou
avec sursis, et lui avait demandé la peine finalement d'être condamné à perpétuité. Non, il a dit je voudrais être condamné à perpétuité si vous avez l'impression que mon geste était un geste de meurtrier finalement. Ouais. Parce que pour lui c'est sa femme qui lui l'a demandé et elle avait une maladie incurable. Et ça pose le problème de l'euthanasie. La fin de vie. Est-ce que finalement il faut mourir dans la souffrance, accepter de vivre dans la souffrance, ou bien est-ce qu'il faut permettre aux gens de mourir dignement ?
Le problème avec
ça, c'est
qu'il peut y avoir des abus aussi. C'est-à-dire que il faut que ce soit quand même bien voilà. bien cadré, que ce soit quand même un médecin qui puisse valider cette possibilité, voilà. cette éventualité. Par contre, je pense quand même que ça reste un petit peu dangereux de laisser ça à n'importe
non, qui. Pas laisser ça à des professionnels voilà, parce que des fois on se rend compte qu'il y a quand même un certain acharnement thérapeutique.
C'est vrai, hein, c'est vrai.
Et qui coûte d'ailleurs très cher à la société.
Oui,
hein, il faut pas mentir.
Moralement,
hein.
À la famille aussi. Ça,
à la famille ça aussi, qui est là pendant des années, alors qu'on sait très bien que c'est une maladie incurable. Ouais. Mais après, face à ça, on a aussi toutes les religions. C'est un débat qui pose problème, dans le sens où on a les religions qui disent non. Mm-hmm. On a l'État qui dit non. On a les familles qui souffrent et qui aimeraient qu'on leur dise oui. Donc, ça pose beaucoup de problèmes de société.
C'est un débat qui fait déjà... Ça fait un moment qu'on en parle
ben
ça,
oui.
et qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution.
C'est vrai que c'est un débat qui est complexe.
On rappelle juste le cas de Vincent Imbert.
Oui.
Oui.
Voilà. Où l'épouse veut, mais c'est les parents qui ne veulent pas.
Les parents ne veulent pas, oui.
C'est ça.
Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est que cette question, pour moi, relève de l'intime.
Ouais.
C'est-à-dire mm-hmm. qu'on devrait laisser les familles face à leur conscience par rapport à ça et que nous, la société, on devrait s'éloigner un peu de ça. Parce qu'on a toujours le recul, comme j'aime à dire, on est dans les tribunes.
Oui.
On regarde et la on souffrance match, et on va, ouais. voilà, on va donner
Tout
notre avis, qui est un avis serein. Mm. Et les gens qui sont vraiment au contact de cette situation, quand une femme est à 80 et quelques années...
83 ans.
83 ans, on ne voit plus le bout. Je comprends le mari. Comme celle qui a tué aussi, qui a accompagné sa fille il n'y a pas longtemps. Qui a été accompagné à 5 ans avec sursis et qui a dit à la société, je vous ai appelé, quelle solution vous me proposez pour ma fille? Personne ne lui a jamais rien proposé. Donc elle s'est retrouvée face à sa fille qui était lourdement handicapée et qui ne pouvait plus.
Voilà.
C'est vrai que c'est dur. Hein.
Donc c'est un peu un débat qui chagrine un petit peu. Et puis bon, 55 ans de mariage avec cette femme quand même...
Oui.
Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire je vais tuer ma femme.
Ben, ça n'a rien à voir avec la dame de 47 ans qui a poignardé son
voilà.
gars.
Voilà.
Ou la veuve noire là, qui vient d'être libérée là.
Oui.
Elle a tué trois hommes.
Parce que le procès a duré
trop longtemps.
L'appel et la première instance, ça a duré trop longtemps.
Voilà.
Ouais, tu nous as...
Donc c'était pas très gay, mais des fois il y a des sujets comme qu'il faut aborder quand même.
Heureusement que Glouba tout à l'heure, ça serait un quoi, ça. On est ensemble. Hein.
Ouais. Voilà, il fallait l'aborder quand même ce sujet.
Ouais.
Et puis vous aviez pris les meilleurs. Et il me restait plus que celui-là.
Ben, je sais pas s'il y avait des meilleurs des. Ouais. Mais tous les sujets ont eu le mérite ce soir d'être abordés.
Maquis pluriel. Roulez mon tour.
Problem do I get away? On his own blazon, once he be a man in the pocket, blame why he died. I didn't buy my own battle. Oh, power the tabla, oh, power yum tabla. Gazubazia,
roulez mon tour, roulez mon tour. Ah, voilà,
Il s'appelle Mewé. Roulez moutou, roulez moutou. Pour ceux qui ne savent pas, le moutou, c'est le derrière, c'est les grosses, grosses fesses.
Position.
Suwenzi Kule Mutu Suwe Brutuma Kule Mutu Bili Watonfo Kule Mutu Mutu Amutu Kule Mutu Aïe Babou
Maki Pluriel
Aïe Babou Aïe Babou Mutu 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 Mutu
Les gens n'aiment pas les gens. Maki Pluriel.
Il s'appelle Frédéric Ewi Mewé. C'est le spécialiste du roulé moutou, du zoblazo, c'est ça, hein? Alassane, c'est zoblazo, hein? On danse avec les mouchoirs.
Après le loulou, le
voilà,
moutou.
Il a fait le loulou, mais vous êtes devant, maintenant il est derrière. Et lui, là, il va nous tuer, oh! Information, on annonce l'arrivée de Gou. Gou Michel, des Guignols de la Bigan, il sera sur Lyon le 6 ou le 9 octobre. Date à confirmer. Il est bossu, mais lui fait rire. Hein.
Ah. Le grand... ah, mais c'est le l'acteur là.
C'est
le...
l'acteur, voilà.
Ah, je le kiffe lui. Il n'était pas dans le clip de Magic System.
C'est
là.
Lui, ah, c'est lui.
Le chaussure à croco là.
Voilà, c'est lui.
Ah, tcho.
Il s'appelle Gou Michel, Kofi Gombo. En tout cas, lui fait rire. Il est bossu, mais il a trouvé sa bosse grâce à sa bosse. Il y en a qui ont la bosse des maths, lui il a la bosse du rire. On revient sur le plateau plus sérieusement. 04 78 21 05 95 Maki Pluriel, on est sur Radio Pluriel numéro 1 sur la diversité, radiopluriel.fr et Radio et Maki Pluriel sur le Facebook. Il s'appelle Alassane, c'est la main tendue. On va partir quand même sur un moment qui va être consacré à l'association. Alors on reprend un peu depuis le début pour les auditeurs qui nous rejoignent. Donc la main tendue, c'est une association qui fait de la maraude, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Donc en fait, ouais, je vais faire un petit flashback. Hein. Donc on a commencé l'association en, on va dire, fin 2011. Donc on a eu le constat simplement que on est très bien chez nous, dans notre confort, sous nos couvertures, et tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont dehors et qui sont dans le besoin et qui n'ayons pas peur des mots, qui meurent du froid, qui meurent de faim et qui meurent dans la rue. Dans l'indifférence la plus générale, des citoyens, des concitoyens, et puis justement, si on remonte encore dans les plus hautes sphères. Après, il existe effectivement des associations, des organismes qui sont déjà sur place, donc notamment je dis, le 115, le SAMU social, la Croix-Rouge, qui font un très bon travail sur le terrain. On ne revient pas là-dessus. Et simplement aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on a voulu leur apporter à ces gens-là ? C'est une oreille attentive, un peu de réconfort, de la chaleur et leur tendre la main tout simplement parce que c'est des personnes qui sont comme vous et moi, qui avaient tout et qui avaient un toit, qui avaient une situation et qui, par la force des choses, par accident, se sont retrouvés dehors. Donc voilà, l'association, elle a pour but de venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin. Donc ce que vous pourrez appeler SDF, nécessiteux, etc., ce sont des termes que nous, on n'emploie pas par respect de leur dignité. Par respect de leur dignité en disant que c'est des gens comme vous et moi, c'est nos amis de la rue, c'est des gens qui sont dans le besoin. Et nous, nous sommes des bénévoles qui se réunissons pour justement pousser loin et repousser loin la misère. Voilà.
Alors, est-ce que je peux poser une petite question à la salle?
Il ne s'agit pas de... Est-ce que je peux, comme si vous devez l'autorisation
en trois exemplaires. Pour quand même. Non, je voulais savoir si, par exemple, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas besoin que de nourriture, ces gens-là. J'imagine aussi qu'ils ont besoin de vêtements, de chaussures,
d'accompagnement.
Tout à fait,
toutes les démarches administratives, je pense.
Administratives, oui. Alors, comment on peut... vous joindre pour vous proposer tout ça.
Eh ben écoutez, effectivement, hein, je rejoins votre idée. Ils n'ont pas forcément besoin que de nourriture, parce voilà. Qu'à travers nos maraudes, il nous est arrivé de voir des personnes qui nous disent « Mais vous savez, moi ça va aller, moi j'ai pas de besoin. » Regardez par contre ces gens-là, donnez-leur à manger, donnez-leur des vêtements ou des chaussures. Donc on fait des récoltes effectivement de vêtements, de denrées, de matières premières, de chaussures,
de couvertures,
de lait pour ses enfants, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même aussi des enfants qui sont dans la rue, des couvertures par temps de grand froid. Et on a eu l'opération l'année dernière, qui a très bien marché d'ailleurs, des tentes pour tous. Donc on a eu donc l'idée d'acheter 150 tentes
bien.
Pour leur offrir en fait à ces personnes qui sont dans la rue. Et donc voilà, c'est des tentes pour nous qui nous ont coûté 7,50 € la tente. On se dit ce n'est peut-être rien,
mais
ça peut les mettre à l'abri de la pluie, de la neige, du froid, de tout ce que vous voulez. Tandis que nous, on se dit voilà, on arrive, on appuie sur un bouton, il y a le chauffage qui tourne on est au chaud. Mais il faut pas les oublier, ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi. Ils ont un cœur, ils ont une âme. Et nous, on a déjà ce qu'il nous faut, on a le strict minimum. Si nous, on pouvait partager, si tout le monde, justement, pouvait partager ce que nous avons, et ben voilà, je vous garantis que ces personnes-là seront très heureuses.
Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis là, ce que je trouve, qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est le fait que ça peut nous arriver à nous tous.
Tout à fait.
Tout à l'heure, tu parlais d'un médecin. C'est-à-dire qu'on est tous dans notre petit confort, on pense qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Il suffit d'avoir des soucis de famille. Hein, on peut avoir une rupture de vie et puis finalement on se retrouve dans ces situations-là. On a vu que par rapport, il faut 3 mois de loyer, enfin 3 mois, il faut que son salaire soit équivalent à 3 mois de loyer. Et on peut tous basculer dans cette précarité.
La dépression, le facteur.
Il peut y avoir la dépression.
C'est la dépression qui est le facteur qui déclenche la pauvreté. Souvent.
Ah. Oui, ça va très vite. Hein.
C'est clair. Et si des personnes veulent faire des dons, à qui doivent-ils s'adresser?
Donc on a mis en place nous un Facebook. Donc, on a un site internet qui est actuellement,
en maintenance.
Oui. Et on cherche aussi, justement, à ce titre, un webmaster, quelqu'un qui pourrait nous faire ce site pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité au niveau des personnes qui souhaitent nous aider. On a donc le site Facebook qui est donc main tendue, la main tendue. Donc, vous pouvez donc avoir ses coordonnées grâce à Maki Pluriel. Et surtout, moi, je suis donc le président de cette association. J'ai mon numéro de téléphone également qui est sur la page Facebook.
Et toutes les personnes. Est-ce qu'on peut le marquer là sur la page?
On peut le marquer.
Est-ce que tu peux nous le donner?
Je peux vous le communiquer, même pour les interlocuteurs qui nous écoutent.
On va l'afficher.
Donc, moi, je suis quelqu'un de très accessible, qui est à l'écoute de tout le monde.
Oui.
Si vous avez envie de participer, que ça soit à travers nos maraudes ou participer d'un point de vue financier ou de nous ramener des denrées ou des vêtements, des couvertures,
mais même
il n'y a pas de problème.
Si par exemple une personne a peut-être un soir ou deux soirs dans le mois de disponibilité, pas forcément dans la régularité, mais si elle peut un soir se joindre au mouvement et aller distribuer des repas, être là, est-ce qu'elle peut le faire ou
mais sans problème, voilà. Parce que nous en fait on est une association, on va dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de nomenclature, on est là réellement. Je vais prendre un exemple qui est un peu bête. Vous venez comme vous êtes. C'est comme le McDo. Vous venez comme vous êtes.
Voilà.
Vous venez.
Il est fort à la salle.
Voilà. Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, nous, le critère qui est là, c'est le partage,
le cœur.
Vous êtes là pour donner de votre temps, de vous-même. Parce que généralement, en fait, ce qu'ils recherchent, ces personnes qui sont dehors, c'est une oreille attentive, quelqu'un qui leur tend la main et qui leur dit oui, bonjour monsieur, je suis là pour
et
vous.
Et qui ne les regarde pas de haut, surtout, qui ne les méprise pas.
Pour aller dans le sens pour répondre un peu à sa question, j'ai visité un peu le Facebook, j'ai remarqué qu'il y a un Doodle qui fonctionne comment. Donc pour ceux qui ne savent pas Doodle, c'est un site qui permet de programmer des rendez-vous où chacun clique le moment où il est libre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça?
Qui peut s'inscrire. Donc alors, le Doodle, en fait, c'est un moyen qu'on a mis en place déjà depuis le début de l'association. Donc, il est mis en lien par nos secrétaires. Donc, en fait, dès que vous êtes sur la page, sur le lien, donc le Doodle, vous cliquez dessus. Et dessus, il y a un tableau où c'est marqué, en fait, le jour de la maraude. Par exemple, si vous pouvez prendre en charge des barquettes pour faire la nourriture, si vous pouvez prendre de l'eau, des fruits, du pain et des gâteaux. Et ça, en fait, ça se fait automatiquement. Maintenant que les bénévoles savent comment ça fonctionne, ils cliquent dessus, ils s'inscrivent. Et au bout de 20 personnes, voire des fois même 25 personnes, on arrête, on clôt les inscriptions pour ne pas, en fait, arriver trop en nombre devant le bénéficiaire. Parce que justement, on a bloqué un certain nombre de bénévoles parce que ça, ça fait partie aussi du respect et la dignité de la personne qu'on vient visiter.
Bien sûr.
Donc justement, comme on disait tout à l'heure, on vient, on se met à leur niveau, on leur donne le respect qui se doit et qui mérite, et surtout, on y va à 4-5, pas plus. Et puis voilà, et donc c'est ouvert à tout le monde, je vous le dis encore et je le répète, vous avez envie de vous inscrire, vous avez envie de nous aider, vous avez envie de participer, il y a la page Facebook qui est fortement visitée, il y a pas mal de personnes et on a un peu plus de 2000 sympathisants qui sont présents dessus. Et voilà, c'est à travers le bouche à oreille qu'on a réussi en fait à être à ce niveau-là.
Alors, une question quand même. Moi, j'ai pu voir votre stand lors du forum des associations du 7e. Mm-hmm. Il était bien achalandé. On a pu visiter, voir, j'ai vu à quoi correspondait une barquette. Je pensais que c'était pour. Ça ressemble, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est les mêmes barquettes que dans l'avion qui sont faites. Quel a été le retour quand même des populations du 7e par rapport à. Sur le stand?
Le retour, en fait, ça a été un retour très positif parce que, en fait, ceux qui s'arrêtaient à nos stands ne savaient pas que ça existait. Ne savait pas qu'on pouvait justement aider des personnes dans la rue comme ça.
Ils pensaient qu'il fallait passer par des structures bien identifiées.
La plupart de ces personnes qui sont venues nous voir, ils se disaient, ben oui, moi en fait, effectivement, j'essaie de donner de temps en temps aux organismes comme le Secours catholique, le SAMU social, etc. Et après, on leur a expliqué, comme tu as très bien pu voir sur le stand, il y avait un dépliant qui retraçait en fait nos actions avec des photos qui étaient bien parlantes d'ailleurs, et pour leur faire voir que sur le terrain, voilà, il y a des personnes qui sont réellement dans le besoin. Et donc après, on a mis aussi sur le stand des barquettes, leur montrer comment en fait on allait voir ces personnes-là et qu'est-ce qu'on leur proposait, avec justement donc les petites barquettes, le jus, la bouteille d'eau, les gâteaux, etc., pour leur montrer que avec de la volonté de quelques personnes, ben on a réussi en fait à ramener en fait à ces personnes un semblant de réconfort, de la chaleur humaine et un repas pour pouvoir, on va dire, dormir, pas le ventre vide.
Moi, j'ai aussi une chose à signaler. Moi, j'ai travaillé dans une grande boulangerie, dans une chaîne, et j'étais très choquée par les denrées qu'on jetait. Et je voulais savoir, parce que j'ai entendu que c'était quand même dans le gouvernement, on était en train d'en parler, qu'on allait justement demander à CGMS de participer à la générosité. Et je voulais savoir si vous aviez, vous, de par votre propre initiative, essayé de taper, parce que souvent, bon, il y a peut-être des clauses, on va dire, ou qu'on ne peut pas enfreindre. Mais je sais aussi qu'il y a des humains qui travaillent là-bas et qui seraient peut-être sensibles à ce que vous faites et qui peut-être pourraient aussi, plutôt que de jeter avec de la poussière dedans, peut-être jeter le sac sans l'abîmer et laisser libre aux personnes qui.
À savoir que ça existe déjà. Donc, il y a des collectifs qui sont créés sur Lyon, donc contre le gaspillage.
Oui.
Et justement, ils vont dans ces grandes surfaces faire les poubelles et récupérer toutes les denrées qui sont jetées.
J'espère
bien. Les redistribuent derrière ou les repréparent pour leur redonner aux personnes qui sont dans le besoin. Mm-hmm. Nous, on a dans ce cas de figure aussi, on a des partenariats avec des boulangeries qui, au lieu de jeter le pain l'invendu, nous le donne, et avec ça, donc on le redistribue derrière.
On peut à cette occasion citer une ou deux boulangeries quand même, parce qu'elles méritent d'être citées.
C'est la boulangerie sur Villeurbanne au Pain Doré.
Oui, qui, eux, à la Maison Neuve.
Voilà, tout à fait. Et qui, eux, nous donnent à chaque maraude du pain. C'est au moins 4-5 sachets de pain.
Génial. On les remercie. Bravo, merci.
On était aussi en relation avec une épicerie solidaire. L'Oasis d'amour, on pareil avec des boucheries qui des fois pareil nous font des prix pour acheter par exemple des de la charcuterie pour faire les sandwichs pendant l'été. On a aussi à remercier mais chaleureusement plein d'anonymes de généreux donateurs qui viennent instinctivement nous rapporter, que ça soit des pâtes, du riz, de la sauce tomate et etc. La générosité elle est là, elle est présente, le partage il s'opère et dans la rue et on le voit. Et aujourd'hui, la meilleure des récompenses, la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est à travers ces bénéficiaires qui nous disent voilà, merci d'exister.
Et ça doit sentir plaisir. Dans le regard, rien que dans le regard.
Et c'est dans le regard surtout.
Et moi, j'irai même encore plus loin, c'est-à-dire que moi, j'irai jusqu'à récompenser ces établissements qui, justement, donnent. Et c'est, moi, en tout cas, pour moi, on devrait même les mettre sur votre Facebook pour qu'on puisse, pour qu'on nous donne envie à nous. Enfin, moi, personnellement,
tout à fait.
Ben, si j'ai l'occasion d'aller, ça s'appelle le pain.
Comment au,
ça s'appelle?
Au pain doré.
Au pain doré, ben, j'irai au pain doré, au moins, enfin, pour, voilà, pour témoigner de mon soutien vis-à-vis de cet établissement.
Tout à fait. Voilà. Et puis d'ailleurs aussi, signaler aussi quand un grand organisme dans lequel je travaille, qui est Orange.
Pousse, voilà, Orange, c'est ça. Hein.
Qui est Orange, qui aujourd'hui, donc j'ai eu à faire une candidature pour un projet solidaire. Donc il s'est passé l'année dernière. Et grâce à ce projet solidaire, ils nous ont octroyé la somme de 5 000 euros.
Ah, merci Orange.
Ben, merci Orange.
Voilà, c'est
bravo.
Ça.
Bravo.
C'est important. C'est important.
5 000 euros, ils nous ont servi à faire ce qu'on appelle l'opération de l'année dernière, qui était le Tour de France des maraudes. Le Tour de France des maraudes, en fait, on l'a imaginé avec les bénévoles et on s'est dit, mais vous savez ce qu'on fait là sur place à Lyon? Peut-être que dans d'autres villes, ils ne sont pas au courant.
Paris, ben
ils ne sont pas au courant que ça fonctionne, etc. Donc nous, en regardant instinctivement le Tour de France de cyclisme, on s'est dit, bah voilà, on va faire un Tour de France des maraudes. Et on est parti en fait à sillonner quelques villes et leur apporter déjà, on va dire, le soutien par rapport à ces personnes qui sont dehors et aussi susciter les consciences de ces citoyens-là. Donc on a édité des flyers, des petits descriptifs et on a fait une après-midi, chaque ville, à tourner dans les rues, alors distribuer ça et leur poser simplement la question, est-ce que vous connaissez la condition de vie de ces personnes qui sont dans le besoin? Et est-ce que vous, dans votre ville, est-ce qu'il y a des associations qui agissent? Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que citoyen, vous êtes acteur de ça?
Moi, je pense que les gens qui sont justement sous le seuil de pauvreté sont beaucoup plus sensibles à la misère qui se passe actuellement.
C'est paradoxal. Hein,
parce que moi, je vois beaucoup de personnes passer qui sont super bien habillées avec leur attaché caisse, qui regardent avec un tel mépris les personnes, même qui sont debout et qui marchent, mais qui n'ont pas le bon blouson ou qui n'ont pas la bonne paire de chaussures, qui les regardent avec un mépris. Alors, j'ose même pas imaginer comment on les regarde, ceux qui sont par terre avec leurs animaux de compagnie, parce qu'il y a aussi quand même des animaux de compagnie
tout
aussi. Donc, bref, il y a tout ça qu'il faut revoir un petit peu, l'attitude des gens là. Il faut, changer
ça.
Un petit peu, évoluer.
Et puis surtout, moi j'ai remarqué que les personnes qui nous voient marauder, qui nous voient agir, et eh bien effectivement, ça leur donne envie de le faire. Parce qu'ils se disent, il y a des jeunes qui sont là, ils œuvrent et tout, ils se plient en quatre et tout pour venir en aide à ces gens. Mais est-ce que nous aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Et justement, j'ai un bel exemple. C'est une personne qui allait au cinéma avec sa petite amie qui nous a vu à la Pardue dans le centre commercial en train de distribuer. Il est venu nous apostropher, il nous a dit, mais écoutez, bonjour monsieur, vous faites quoi là? Je lui ai dit, écoute, on est en train de distribuer de la nourriture aux personnes qui vivent dehors, qui sont dans le besoin. Ah, mais c'est très bien ce que vous faites. Et si on a envie de vous aider, on peut venir. Une semaine après, il m'appelle au téléphone et il me dit, voilà, je veux être bénévole avec vous et je veux aider moi aussi.
Au moins, lui, il est passé des paroles aux actes.
Et puis, ça peut être une thérapie aussi parce que ça fait tellement du bien de faire du bien.
Exactement.
Ça remonte le moral.
Exactement. Il y a des gens qui se plaignent, qui se lèvent le matin et nous fatiguent.
Ah oui.
Allez faire un tour de maraude, vous verrez quand vous allez rentrer chez vous.
Vous allez voir comment vous allez être heureux et de voir vos enfants.
Vous allez distribuer le bien et puis tout le monde va être content.
Voilà.
Il est parmi nous, il s'appelle Alassane de la main tendue.
En tout cas, bravo Alassane. Vraiment,
bravo pour
qui merci Alassane.
C'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier la multitude de bénévoles, la multitude de personnes qui font le bien autour d'eux.
Bah, t'es le représentant, alors on en profite.
Nous aussi, on fait le bien. Maki Pluriel, on t'a reçu.
Ouais, bravo à Maki Pluriel.
Voilà,
pour
merci
justement
à Maki
donner écho à nos échos.
Ok. Oh, voté à la salle, bravo. 04 78 21 05 95. On met un peu de détente parce que c'est vrai que le sujet est un peu dur avec le temps de température qui commence à baisser. Mais bon, on pense aussi que dans la bonne humeur, on peut aussi arriver à supporter ça. Voilà, 04 78 21 05 95. On fait une petite virgule musicale, on passe un petit moment avec Alassane et puis on va vers Glouba aujourd'hui qui a écrit de très très bonne humeur, j'ose le dire. Moi, je suis comme ça quand c'est pas